OK, Pascal Cévon, règle ça là, là.
Oui, vas-y.
Ouais. On a-tu un Gilto qui nous écoute?
Il doit pas être loin.
418-971-1021, si t'es le Gilto qui nous écoute, on veut te connaître. On en a pas vu hier du côté du mal commode. En tout cas, il n'y a pas d'auditeurs qui sont venus me voir pour me dire « Salut, mon nom, c'est Gilto. » Et là, dans notre lancement d'émission du toujours, le midi Gilto. Alors, est-ce qu'il y a un Gilto dans la salle? Pensez-vous que ça existe? Un Gilto?
J'en ai jamais connu.
Je comprenais pas de quoi vous parliez.
Ben oui! Ça dit toujours ça. Le midi Gilto.
Ah, c'est un petit accent français.
Ouais.
Gilto.
Gilto. Gilto. Alors, s'il y a un Gilto, 418-971-1021, sinon vous pouvez nous texter aussi, réagir sur ce qu'on va dire. On ne dira pas juste des niaiseries quand même.
C'est une variante du prénom italien Gildo, qui est d'origine germanique et celtique. Faut vraiment être chanceux en pognon au Québec, je pense.
Ouais, c'est ça, là.
Gildo, peut-être.
Ouais, mais pas Gildo.
Ouais, peut-être. Bref.
Gilto.
Gilto.
Mais moi, d'origine italienne, il n'y a pas de problème, là. Oui, si Gilto, on écrit, là, 418-971-1021.
Exactement. 418-971-1021. On a Steve qui nous écrit non, moi, c'est Giltard. Ah, là, les jeux de mots vont commencer.
Ah non, quelqu'un va écrire, moi, c'est Giltard.
Ouais,
c'est
ça.
Le nom de ma femme.
Exactement. Ouais, c'est ça. Bon, quelqu'un qui écrit Dildo, évidemment.
Ah, bien sûr.
Ça allait sortir, c'était bon, ben, convaincu.
On va y aller pour Gilto, c'est ça.
Ouais, c'est ça, exactement. La web radio, blvd.fm pour nous écouter également. Et les meilleurs moments des émissions se retrouvent à cet endroit-là. Notre application Boulevard sur App Store, Google Play Store, twitch.tv/blvd/fm. Et Pascal, dis-moi donc.
Oui.
Si l'application est la meilleure façon de nous écouter, il y a plein de gens qui sont rendus avec des haut-parleurs intelligents. On dit quoi, ce haut-parleur-là, non?
BLVD-1021. Si vous ne voulez pas vous retrouver en América, ouais, là, avec les Américains, c'est ici. Donc, BLVD-1021.
Si vous ne voulez pas non plus que ça soit Gilto, finalement, qui vous parle dans votre haut-parleur.
On va le laisser coucher, lui.
Exactement. Beaucoup de choses aujourd'hui dans l'émission. Évidemment, on a le caucus Iaccarini qui arrive dans quelques instants. François Beaulieu, candidat dans Saint-Rodrigue pour l'équipe Leadership Québec, va venir s'asseoir avec nous aux alentours de 12h45. On va parler de la campagne électorale. Une campagne électorale qui devient de jour en jour encore plus sale et encore plus dans les bas-fonds. Alors, on va parler de ça avec lui. C'est sa première expérience en politique, malgré sa longue expérience dans les médias, notamment comme journaliste sportif. Donc, c'est clair. Pascal, tu nous as préparé un beau dossier sur l'agriculture. Nos agriculteurs en arrachent en tabarouette.
Bien, je veux dire, ils sont en train de nous nourrir à perte. Ça veut dire qu'ils payent pour nous nourrir. C'est un peu ce qu'on est en train de comprendre. Puis au profit de qui?
Ouais.
De la Chine, entre autres.
C'est ça. Aïe, 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 ça ne va pas bien. Et Rémi Villemeur va venir faire sa chronique. On va entre autres parler, c'est l'émission de JA de ce soir. C'était dans le Journal de Québec aussi ce matin, de ses amours par intelligence artificielle. David, un homme de Québec qui s'est marié avec un robot artificiel, mm-hmm, puis qui vit de la jalousie par son robot. Parce que là, il veut rencontrer quelqu'un dans la vraie vie.
C'est beaucoup d'informations. J'essaie de vraiment pas être dans le jugement. J'essaie sincèrement de comprendre parce que, je sais pas, moi, d'où tu viens peut mener peut-être à marier une intelligence artificielle. C'est peut-être plus facile. Mm-hmm. Mais de là à avoir de la jalousie, il y a beaucoup d'émotions sincères, réelles, authentiques par rapport à un robot, là.
Relation toxique en intelligence artificielle. Non, mais c'est vrai, c'est carrément ça. On va parler de ça avec Rémi Villemeur parce que Rémi voit là-dedans la grande solitude qui s'installe au Québec. Puis je pense qu'il y a raison.
Dans les tendances sociales, là, le Japon est souvent précurseur. Puis ça se passe depuis au moins 6-7 ans.
C'est vrai.
Le journaliste Guillaume Piedbeuf est allé faire un tour au Japon dans les dernières années, mm-hmm, puis il a fait des portraits éloquents de ça. C'est encore disponible là, sur, la page de Radio-Canada, mais si ça vous intéresse, il y a ça aussi. Bien, j'ai hâte de parler à Rémi pour ça.
Ah, moi aussi, j'ai très hâte et je vais écouter l'émission JE ce soir. Évidemment, on passe maintenant au...
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iaccarini.
Antonine Iaccarini, es-tu prête à mettre ta main sur le cœur?
Oui.
Parce que on débute ce caucus en écoutant l'adresse à la nation de notre premier ministre, le chef de la CAQ, le premier ministre très populaire, François Legault.
Les médecins font un travail essentiel. Puis on a tous beaucoup de respect pour leurs compétences. Mais les médecins ont la responsabilité collective de prendre en charge les Québécois, en particulier les plus vulnérables. Ils ont la responsabilité d'être disponibles le soir, les fins de semaine. Les syndicats de médecins voudraient qu'on garde le statu quo, qu'on continue comme avant à leur verser toujours plus de primes, toujours plus d'argent, mais les gouvernements précédents ont essayé cette recette et les résultats ne sont pas au rendez-vous, donc on ne peut plus continuer comme ça. En plus, les syndicats sont en train de retarder l'arrivée des nouveaux médecins avec leurs moyens de pression dans l'enseignement. On ne peut pas accepter ça. Tous les gouvernements avant nous ont toujours cédé aux pressions des puissants syndicats de médecins. Nous, on ne va pas céder.
La guerre est pognée, Antonine.
Puissant syndicat de médecins.
Ouais.
Le choix des mots est important.
Ouais. La guerre est pognée là, entre François Legault, les médecins, ouais. Christian Dubé. Puis là, c'est une vraie guerre là, parce qu'on dit on va faire une loi spéciale. Puis en plus, dans la loi spéciale, on va mettre des amendements pour éviter l'exode des médecins. Donc là, on est en train de brimer un droit fondamental d'une personne de dire ben, « je veux plus vivre ici, je vais aller ailleurs ».
Ben, le gouvernement n'a plus besoin vraiment de négocier. Donc, il peut rajouter des choses dans sa loi spéciale puis réaliser tous les rêves les plus fous qu'il avait. En fait, la FMSQ, les médecins spécialistes qui ont rejeté la quatrième offre, le gouvernement avait qualifié cette offre-là de finale. Donc déjà, ça avait des allures un peu d'ultimatum.
Oui. Donc, l'ultimatum qui était 10 heures ce matin.
OK, ouais, ben là, c'est un autre ultimatum, mais ouais. il y a comme eu beaucoup d'ultimatums, dans le fond. Et la FMOQ, là, dont on attendait la réponse, qui a annoncé aujourd'hui qu'elle allait arrêter là, les moyens de pression liés aux étudiants en médecine, au moins, c'est déjà ça. Mais tu sais, quand on voit des négociations avec le secteur public, avec d'autres corps professionnels, il y a beaucoup de déchirage de chemise. On a souvent l'impression que les gens sont très, très loin, que les positions sont très lointaines les unes des autres. Puis finalement, à un moment donné, ça débloque, puis on finit par signer une entente. Là, on sent vraiment des différences irréconciliables entre les parties. Et c'est jamais souhaitable d'en arriver à une loi spéciale puis des conditions de travail puis des conditions de rémunération qui sont imposées. Parce que si c'était souhaitable, les gouvernements en abuseraient, là, mais il faut quand même qu'ils fassent un peu semblant de négocier de bonne foi.
Exactement.
Parce que tu ne peux pas imposer ça.
Mais y a-tu de la bonne foi là-dedans? Puis là, de part et d'autre, là, parce que tu sais, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, qui aujourd'hui dit c'est bon, on retourne à l'enseignement, puis on retourne à la table. Mm-hmm. Dans les faits, ils ont toujours dit nous autres, on ne veut rien savoir d'un projet de loi. On veut l'arbitrage.
Oui.
Là, il retourne à la table parce qu'il y aurait une loi spéciale qui se prépare. Mais puis en même temps, mais le gouvernement, tu sais, il a toujours eu son projet de loi dans les mains en disant « Hey, les petits amis, si vous écoutez pas, ben nous autres, on met ça. » Fait que j'ai l'impression que autant d'un côté comme de l'autre, on ne s'est jamais réellement écouté.
Mais on ne s'entend pas sur le diagnostic. Alors comment veux-tu qu'on s'entende sur le remède?
C'est vrai.
On nous répète, les médecins nous répètent qu'il n'y a pas assez de médecins. Le gouvernement nous répète toujours qu'il y a assez de médecins, que c'est un problème d'organisation, qu'il faut aussi mettre des indicateurs de performance qui sont liés à la rémunération, donc une partie de leur salaire qui serait liée à la prise en charge notamment, parce que c'est ça le problème. C'est qu'on n'a jamais réussi à faire en sorte qu'un grand nombre de Québécois aient accès à un médecin, soit pris en charge par un médecin ou par d'autres professionnels, là, mais on n'est pas rendu là visiblement, malgré qu'on a donné des primes, malgré qu'on a signé des ententes par le passé qui devaient augmenter la prise en charge, puis surtout des patients les plus vulnérables. On parle de gens, tu sais, par exemple, qui souffrent de diabète, qui ont besoin d'avoir des suivis réguliers, qui n'ont même pas de médecin de famille. C'est un constat qui est grave. Est-ce qu'il y a eu de la bonne foi? Bien, le gouvernement a bougé, parce qu'au début, ils étaient à 25 % du salaire du médecin qui était lié à des indicateurs de performance.
Là, ils sont rendus à 15, si je ne me trompe pas.
Ils ont réduit ça à 15 %. Mais ce que les médecins voudraient, en fait, là, puis là, ça se discute dans les couloirs, mais c'est que s'il y a une partie de la rémunération qui est liée à des indicateurs, bien, ce serait en plus de ce qu'ils ont déjà. Donc, on ne touche pas à ce qu'ils ont déjà. Mais le 15 % en fait, c'est une augmentation de salaire.
Fait qu'un bonus à la performance.
Ça, un bonus à la performance.
Alors que...
Mais on l'a déjà fait, ça, Jeff.
Oui, puis ça n'a pas fonctionné.
Puis ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est un peu ça le message du premier ministre. D'ailleurs, très spontané, là, toute cette opération de communication hier du premier ministre, là, dès que l'offre a été rejetée, tout à coup, il y avait une vidéo qui annonçait une vidéo. Non. Après ça, ils ont sorti la vidéo. Il y a une infolettre qui est partie. Tu sais, c'était tout déjà un peu ficelé.
Ça n'avait pas été préparé à l'avance.
Pas
à ça.
Tout. Non.
Voyons donc, ils ont juste réagi parce que les médecins ont dit un non final.
Exact. C'est pas de leur faute.
Ben non.
Et la FMSQ a dit, vous voyez bien que c'était une grosse pièce de théâtre pour faire semblant qu'on négociait, mais que dans le fond, on a toujours voulu finir par une loi spéciale.
J'avoue que ça paraît mal. Hein?
Ben oui, mais en même temps, il faut que ça se règle à un moment donné. Donc, loi spéciale. C'est quoi une loi spéciale? Une loi spéciale, c'est qu'on dépose et là, ça va à toute vitesse. C'est-à-dire que tout le monde est pris à l'Assemblée nationale. Bon, vous avez le droit de sortir si vous voulez, là, mais votre whip ne sera pas content. Et on y va dans une procédure qui est accélérée. Et dans un projet de loi normal, les oppositions ont, disons, la possibilité de rallonger beaucoup les choses. Là, dans un baillon, on n'a pas la possibilité de rallonger. Donc, ça y va par là. C'est au gouvernement qui est majoritaire, le gouvernement de la CAQ. Donc, ils vont réussir à passer ce projet de loi-là. Et il n'y a rien qui t'empêche, effectivement, dans la journée, il y a des moments pour amender le projet de loi. Des fois, il y a des petites affaires qui arrivent là, dans des heures là, où il n'y a pas beaucoup de couverture médiatique. où les gens sont plus fatigués aussi. On a vu ça par le passé, là, des amendements qui changeaient quand même pas mal
exactement.
De choses.
Oui, donc, notamment sur la loi, justement, de la réforme en santé qui a amené Santé Québec. On a passé sous baillon une couple d'amendements entre 1h30 et 3h du matin. Là.
Ah oui, puis je pourrais donner des exemples en éducation. Quand ils ont aboli les commissions scolaires, ils ont passé un amendement pour que les municipalités aient comme une obligation de céder des terrains pour des écoles.
Oui, c'est
les municipalités
vrai.
Sont encore fâchées. Ça fait 7
ans
de ça.
Vraiment fâchées. L'Union des municipalités du Québec est très fâchée. On a une question aussi par texto qui dit les médecins sont travailleurs autonomes, ils sont syndiqués. Étrange. Non, c'est pas nécessairement qu'ils sont syndiqués, ils font partie d'une fédération.
C'est des fédérations. Mais le premier ministre aime beaucoup dire le mot syndicat. Pourquoi? Parce que l'image des syndicats n'est pas toujours positive dans l'espace public. Donc, ils essaient, en fait, d'augmenter votre appui envers le gouvernement. Est-ce qu'ils essaient de faire?
Est-ce qu'il va y avoir loi spéciale ou non, selon toi?
Oui. Moi, je pense
qu'il y a pas... Oui, on s'en va là.
Ben, tu sais, écoute, encore une fois, qui sait? Tout pourrait débouler dans la même journée. Avoir le niveau d'émotivité aussi des médecins présentement. Et quand on regarde qu'est-ce qui s'est passé avec le Collège des médecins, tu vois, là, leur niveau de colère et d'exaspération est tellement grand. Pas toujours pour le mieux, d'ailleurs, parce que je trouve que ce qui s'est passé avec le Collège des médecins puis le blâme que Dr Maurice Gaudreau a eu, c'était vraiment exagéré pour
vraiment.
Que dit, là. Dans le fond, il a lu le code de déontologie.
C'est ça.
C'est à peu près ça qu'il a fait. Donc, ce serait étonnant que ça se règle d'ici la loi spéciale. Les députés, le vendredi, rentrent chez eux d'habitude, mais demain, ils seront à l'Assemblée nationale.
Donc,
on va
tout le
ça,
monde
attention.
À Québec demain.
Temps supplémentaire. Mais ça fait tellement réagir. T'sais, par texto, on voit des gens qui ont complètement changé d'idée ou qui sont devenus divisés quand, au départ, ils donnaient un petit peu plus de force à ce que le gouvernement voulait implanter puis, du moins, tenir les rênes du dossier. Ça commence à changer. Quand je lis, là, au moins une dizaine de textos où les gens sont en dissonance. Là. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'entendre de cette manière-là, mais pour certains, ils voyaient les médecins comme étant des gens qui étaient fortunés à la base, qui en prenaient large puis qui en voulaient encore plus. Mais quand ils ont entendu dire qu'ils allaient être rémunérés selon la performance de leurs collègues, parce qu'on faisait un plein, ils se disaient, ben là, attends
c'est
un peu.
C'est collectif. Là. C'est que, oui, moi, je veux bien que ma rémunération soit notamment liée à ma performance, mais tu veux pas que ce soit lié à la performance de quelqu'un que tu contrôles pas. Là,
en effet.
Donc ça, c'est un point d'achoppement. Mais le gouvernement aussi a mis de l'eau dans son bain sur certaines choses. C'est, par exemple, on dit des médecins qui sont plus âgés, qui veulent plus nécessairement travailler la fin de semaine ou faire des nuits complètes. Là, j'exagère un peu, parce que dans le fond, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait plus de plage horaire le soir pour la fin de semaine dans les cliniques. Il y a aussi des disparités régionales. Il y a des endroits où est-ce que les besoins sont différents. T'sais, tout ça, ça fait l'objet de négociations. Les gens ont été surpris aussi de savoir qu'on parlait beaucoup des indicateurs, mais que les médecins demandaient des augmentations aussi. Dans les dernières années, il y a eu des augmentations chez les médecins, puis ils sont parmi ceux qui sont bien traités à travers le pays. Quand on a laissé circuler un chiffre autour de 30 % d'augmentation de salaire dans les derniers jours. Bon, c'est le gouvernement qui spinait ça.
Oui, oui, exactement.
Ça
fait
les
partie
gens,
de la négo.
Ils ont fait un saut, là.
Ça fait partie de la négo. Il n'y a pas de doute là-dessus. Antonine, les contrôleurs routiers vont avoir des guns.
Yes.
Des armes à feu, mais dans 18 mois.
Minimum. Toi, t'es optimiste en plus, là.
Hey, ça prend donc bien du temps,
ça. Ça, c'est ce que le gouvernement nous dit, 18 mois. Attends, là. Attends un petit peu. Bien, oui, puis c'est correct que ce soit pas fait sur le coin de la table. Le problème avec ça, c'est que on est déjà dans une situation où on a des risques sur la route. On en a parlé abondamment ici à l'émission. Et on a un enjeu notamment de chauffeurs à rabais qui créent toutes sortes de risques.
Clairement.
On a des accidents.
Pascal nous a fait un excellent dossier avec une citoyenne là, qui s'était fait prendre entre un autobus scolaire et un polo.
Le cauchemar. Ouais. Donc, il y a cette situation-là qui a déjà cours. Mais on ne peut pas donner... T'sais, on le sait qu'il fallait qu'on change certaines conditions de travail des contrôleurs routiers pour qu'on les renvoie faire leurs interventions. Mais c'est sûr que ça ne marche pas de même. On ne va pas dire bon, ben, tiens, voilà un gun pour toi.
Ah ouais, pars avec.
C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, formation, mais il faut aussi créer une espèce d'infrastructure dans laquelle on va prévoir comment on entrepose ces armes-là, comment les contrôleurs routiers les enregistrent, peuvent les prendre, comment on fait le suivi de quelle arme est à quel endroit.
Quel type, fort probablement aussi.
J'imagine. Après ça, il va falloir aussi. Organiser la coordination avec les services policiers, parce qu'avant d'aller faire une intervention avec une arme à feu, c'est toujours le fun de savoir si tu es en train de faire une intervention auprès d'un chauffeur qui est recherché pour meurtre ou si c'était un des problèmes, parce que quand la Cour avait déterminé que les contrôleurs routiers faisaient un travail qui est trop dangereux dans les conditions actuelles et qu'ils ont confiné dans leur poste de pesée, il y avait plusieurs recommandations à mettre en place. Le problème, c'est qu'on commence beaucoup trop tard. On a pelleté par en avant. Mmh. Et là, on se retrouve à l'extrême limite avec des dangers sur la route. Puis évidemment, le gouvernement ne peut pas précipiter les choses parce qu'on parle quand même d'armes à feu. On ne peut pas mal faire les choses. Il y a eu aussi évaluation. Est-ce qu'on devrait plutôt leur donner des tasers? Finalement, c'est encore plus compliqué à gérer les tasers que les armes à feu. Puis, tu sais, il faut quand même rappeler que les agents de la faune au Québec ont des armes à feu. Il y a des agents de sécurité qui ont des armes à feu. Il y a des gens qui font du transport de prisonniers entre les centres d'incarcération qui ont des armes à feu. C'est pas étrange là, que les contrôleurs routiers, finalement, vont être armés. Mais ça demande un certain travail pour y arriver. Puis le gouvernement a tellement pelleté par en avant que finalement, on se retrouve comme ça avec une situation de danger sur nos routes qui va se poursuivre pendant encore un moment. Là.
Est-ce qu'on va avoir aussi ce genre d'enquête-là si on considère que l'arme à feu a été utilisée dans une situation où elle n'avait pas à être utilisée? Donc, ça va être un peu le même protocole que pour un policier?
C'est ça, quand un policier utilise son arme, que quelqu'un qui est blessé ou tué dans la situation, bien, il y a une enquête indépendante. Il y a toute une infrastructure autour de ça. Puis au Québec, je pense qu'on a des bonnes lois qui font en sorte qu'on veut que les armes à feu soient utilisées en toute sécurité. Et c'est normal. Le problème, c'est quoi? C'est d'abord attendu aussi longtemps. Puis, à la défense du gouvernement du Québec, il y a quand même eu une tempête parfaite parce qu'il y a aussi un bout de responsabilité qui appartient au fédéral, l'Agence du revenu du Canada, qui est tellement performante, on l'a vu avec un rapport de la VG cette semaine, qui a arrêté de faire un peu la police, entre guillemets, sur certaines choses qui concernent les chauffeurs de camions, justement. Fait, c'est ça aussi qui a augmenté le risque, c'est qu'on a des chauffeurs à rabais qui ne sont pas formés, qui se promènent sur nos routes. Donc, c'est la tempête parfaite. Cela dit, quand même, le gouvernement a pelleté ça par en avant. Savez-vous, ça fait combien de temps que les contrôleurs routiers demandent des armes à feu? Donc,
Je vais te dire, mettons, 12 ans.
12 ans?
Oh, OK, Pascal? Je serais allé un petit peu moins, là. Ouais. Je serais avec un 5, 6.
Ça fait 40 ans.
40 ans. Ah!
Okay. Et on est encore
mais
là.
Mais on plaidait ça comment au départ, il y a 40 ans?
C'est la même chose. C'est de dire, toi, là, il faut connaître un peu le milieu du camionnage, puis il y a des camionneurs qui ont témoigné récemment, mais toi, tu arrêtes des camionneurs sur la route et tu dis, là, tu vas m'ouvrir ta boîte. Qu'est-ce qu'il peut avoir dans des boîtes de camions?
Pour
la
certains,
drogue,
c'est ça.
Des gens, tu sais, il peut avoir toutes sortes de choses.
Des
explosifs, peu importe. Puis c'est sûr que... j'ai fait un débat là-dessus il y a quelques jours, et puis les gens avec qui je débattais disaient, c'est dangereux, les armes à feu, il peut avoir une bavure, on peut se tromper. Les agents de la faune ont des armes à feu.
Oui, puis là, les contrôleurs...
Fin du débat.
Exactement, les contrôleurs routiers vont être en mesure là, d'utiliser l'arme à feu à bon escient.
Ben, certains demandent des caméras corporelles aussi, annexées à ça. T'sais, t'as plein
c'est
de demandes.
Comme les policiers, c'est toujours les mêmes débats. Mais sachez quand même que si les agents de la faune ont des armes à feu, c'est parce qu'il est arrivé des catastrophes. C'est toujours ça. On attend toujours qu'il y ait une catastrophe avant d'agir.
Et là, la catastrophe a été le laxisme au niveau du Canada qui a donné énormément d'accidents
sur
les routes du Québec.
Puis la décision du tribunal, surtout.
Oui.
Puis,
prenez des gens qui n'ont rien à perdre. C'était rendu dans le crime organisé, c'était rendu dans le transport de personnes, c'était rendu souvent, c'est qu'il y a peut-être la détresse humaine derrière ça, puis tu n'as rien à perdre. Puis tu ne veux certainement pas aller en prison, mais pour les autres aussi, ben, le crime organisé, une tête ou une autre, là, c'est pas trop stressant si jamais tu es capable de sauver ta peau.
On parle beaucoup de délais administratifs là, par texto au niveau de nos auditeurs qui, justement, sont au fait là, du dossier. Mais je veux vous faire entendre le plan, justement, présenté par Jonathan Julien. Il en a parlé sur les ondes d'LCN. honnêtement, je trouve que c'est un plan qui est bien détaillé, le plan de rattrapage.
L'enjeu qu'on a, c'est entre 4 et 18 mois. Puis 18 mois, là, je suis conservateur quand je dis ça. Les équipes okay. me disent, oui, on devrait y arriver. Moi, j'espère que les 330 contrôleurs routiers vont être formés d'ici 12 mois. Quand je le dis, je me mets de la pression sur moi puis sur mes équipes, puis c'est bien carré. Mais dans quatre mois, les premières cohortes vont être formées. À peu près 55 contrôleurs aussi qui ont déjà eu le port d'armes dans d'autres fonctions préalables. J'arrive à votre question. Mais d'ici là, on disait, Yann et moi, il faut que les contrôleurs routiers puissent se retourner sur la route le plus rapidement possible, pas dans 4 mois. Alors, on a fait des travaux avec les corps policiers et les contrôleurs pour faire des travaux qu'on appelle d'assistance. C'est-à-dire que on a identifié 50 sites plus problématiques, des sites stratégiques. Ça a été identifié par l'équipe des contrôleurs routiers pour dire ces sites-là, on devrait faire des interventions parce qu'ils sont à plus haut niveau de risque. Et on va être accompagné par la police. Donc, ils vont être jumelés policiers et contrôleurs routiers.
Je trouve ça bien. On forme rapidement ceux qui ont déjà eu le port d'armes dans d'autres, justement, emplois ou situations. On jumelle les autres avec des policiers dans des sites qui sont prioritaires. Je pense que nos routes vont redevenir plus sécuritaires quand même assez rapidement.
En termes de politique réactive, tout est bien fait. Là.
Oui.
Mais ça demeure très réactif.
Ça demande de la réaction. Si je veux être bon joueur pour Jonathan Julien, il vient d'arriver.
Mais c'est ça, c'est pas de la faute de...
Je trouve que Jonathan Julien fait un bon travail dans le dossier.
C'est ni la faute de Yann Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ni celle de Jonathan Julien.
Ils viennent d'arriver en poste.
Mais
c'est la CAQ qui est au pouvoir depuis 7 ans, bientôt 8. Sûrement pas 9.
Voyons, je ne sais pas pourquoi tu dis ça.
Je ne sais pas. J'ai regardé certains sondages, dont celui sur François Legault hier.
Les sondages.
Bon, on demeure dans le réseau routier. L'étiquette. Tabarouette, il y a un candidat à mairie qui... Il y en a d'étiquettes, Antonine. Tu penses quoi de ça, de Stéphane Lachance, qui a accumulé une vingtaine d'étiquettes en 14 ans, qui en a plein qui n'a pas payé? Il a roulé 89 km/h dans une zone de 50.
Bon, un ticket, ça arrive.
Ouais.
Deux tickets, ça arrive. Quand on a autant de contraventions pour des... Tu sais, c'est pas une étiquette de stationnement, là, non plus, en passant.
Non, c'est l'étiquette
de vitesse, c'est ça. Oh, oui, des choses comme ça. Bon, est-ce que c'est d'intérêt public? Moi, je pense que oui.
OK, explique-moi.
C'est la première question à se poser.
Parce que là, Stéphane Lachance dit que c'est de l'acharnement.
Absolument, puis c'est sa défense, il y a droit. Mais moi, je pense que c'est d'intérêt public. D'ailleurs, si vous conduisez en état d'ébriété puis vous voulez vous présenter en politique, préparez-vous. Là, ça va sortir. Et il y a des gens qui ont été élus malgré tout, qui ont dit « je suis repentant, je l'ai fait une fois, c'était une erreur ». Et il y a des gens qui ont été élus malgré ça. Là, les gens peuvent pardonner des erreurs.
Mais ça a été adressé.
Il faut admettre, par contre, c'est tort.
Oui.
Puis pas accuser les médias de faire de l'acharnement pour que les gens soient en mesure de dire, écoutez, des erreurs, ça peut arriver à tout le monde.
23 contraventions
voilà.
en 14 ans.
Ça, c'est le deuxième aspect. Une fois qu'on s'est dit entre nous que c'est d'intérêt public, là, il y a l'ampleur de la situation.
Je ne sais pas, tu peux en avoir autant pour garder ton permis.
Il l'a perdu, son permis, d'ailleurs. Il a fallu qu'il récupère éventuellement parce qu'il ne payait pas, en fait, ses contraventions. Donc,
c'est peut-être pour ça qu'il le gardait pendant plus longtemps, pas le payer.
Peut-être. Parmi les arguments de sa défense, il dit qu'il est beaucoup sur la route. C'est vrai que ça peut.
Oui, bien, si tu veux, on va l'entendre, justement. Mm-hmm. Il a donné une entrevue à Max Larouche dans le Point de Max.
Je roule en moyenne 75 000 km par année. La moyenne en tant que telle de monsieur et madame tout le monde, c'est environ 15 à 20 000 km. Donc, c'est sûr que mon pourcentage d'avoir des infractions au code de la route sont plus élevés. Ça fait pas pour autant qu'on doit suivre les infractions, le code de la route, ça c'est sûr et certain. Mais dans tous les cas, je veux dire, je l'ai payé l'amende. Je sais que dans un des cas qui a été rapporté, Saint-Hilaire, je me suis opposé à l'infraction. Malheureusement, j'ai manqué la date de parution devant la cour municipale, ce qui a fait que j'ai été déclaré coupable automatiquement. J'ai fait une demande pour pouvoir me représenter à la cour municipale. Puis au final, en tant que tel, ma version n'a pas été retenue, donc. J'ai payé. Donc, quand j'ai lu le descriptif là pour se porter candidat comme maire, on m'avait pas dit qu'il fallait présenter son dossier de conduite. Là, on parle d'une recherche qui s'est faite sur 24 années. 19 tickets pour en 24 ans, ça fait même pas un par année. Là, tu sais.
Je corrige M. Lachance, ça, c'est sur 14 années, c'est 23 tickets. Là, que
peu importe, commencez à se légitimer,
exactement.
Moi, ça.
Mais là, je fais beaucoup de routes, mais là, depuis ce matin, moi, on a des auditeurs qui nous écrivent, qui disent, j'en fais 70-80 000 km par année. Je fais environ 100 km par année, 100 000, 100 000 km par année. J'ai pas de tickets. Puis là, depuis un matin, ça rentre. Ça. On n'est jamais... 89 dans une zone de 50 n'était pas pour éviter un grand excès de vitesse qui était donc à 90. Fait que peut-être même qu'un policier a été gentil. Fait que ça rentre depuis ce matin, les gens qui disent « j'en pogne pas, moi, une ticket, puis je roule. »
Moi, j'ai 41 ans et j'ai jamais pris un ticket de vitesse, un stop brûlé, un feu rouge. J'ai juste des tickets de stationnement.
Parce en 27 ans.
À Montréal, en plus, même pas à Québec.
Super facile.
En 27
pas,
ans, j'ai un ticket, là.
Ben, c'est ça.
Moi, j'en ai plus que ça, par exemple. Je suis pas dans la cour à Stéphane Lachance.
Les gens se font...
Toi.
Les photoradars.
Les gens se font une opinion sur les candidats, oui, sur leur programme, mais aussi sur leur manière de gérer les choses. Donc, sur leur caractère, leur attitude. Puis, cette aventure-là là, de Stéphane Lachance avec le code de la route et ses tickets, bien, ça en dit sur sa façon qu'il a de gérer tout ça. Il dit « Ah, ben ça, j'ai perdu mon permis parce que je me suis pas présenté à la... » Ben, pourquoi tu t'es pas présenté? Tu sais, je veux dire...
La justification, je m'excuse, me faisait rire.
Ben oui.
Pendant l'entrevue, je la trouvais un petit peu absurde.
Puis là, il y a poursuite pour 14 377 de loyer impayé. Ça, j'ai pas l'extrême, mais il l'expliquait à Max que c'était pendant la COVID, il attendait des subventions pour son entreprise. Il y a des justifications à tout, mais c'est juste que moi, puis là, vous me corrigez, je me trompe, mais je vais quand même donner mon opinion, puis corrigez-moi si vous voulez. Mais tu te présentes comme étant monsieur rigueur.
Et voilà.
Je vais gérer les finances comme la ville n'a jamais été gérée. M'a géré la RTC comme il n'a jamais été géré.
Tu critiques la gestion des autres.
En plein ça. Mais ta gestion personnelle est déficiente. Donc, pour moi, c'est une perte de crédibilité.
Mais ça se peut qu'au personnel, ça soit un petit peu chaos parce que le professionnel prend son... Ça se peut, ça aussi.
C'est un bon
mais
point.
Ça donne pas l'image, par c'est contre, ça. D'un gars rigoureux.
En fait, on appelle ça genre, lancer des pierres dans une maison de verre. C'est que tu le sais, toi. Tu sais, avant d'aller en politique, là, je ne veux pas vous donner un grand cours de relations publiques, mais il faut que tu fasses la liste de son où tes points de risque et tes points de faiblesse. Puis là, ça, c'est une faiblesse. Fait que là, à un moment donné, avant de faire la leçon aux autres sur la gestion, bien, il faut effectivement que tu regardes dans ta cour. Il y a une nouvelle affaire aussi qui s'est rajoutée dans les dernières années, c'est tout ce qui concerne les biens immobiliers. Parce que normalement, avant de se présenter en politique, on fait le tour avec notre équipe de tout ça. Puis si vous voulez être candidat, vous allez passer un petit peu un test. Là. Ils vont regarder votre plumitif, ils vont vouloir savoir, t'as-tu déjà fait l'objet d'une plainte de ça?
T'as-tu quoi dans ton garde-robe?
T'as-tu des squelettes dans le placard? Et maintenant, la gestion aussi de ton immobilier, fait vraiment partie de la liste et surtout dans un contexte de crise du logement. La façon dont tu traites tes locataires, que tu augmentes tes loyers, tout ça aussi est surveillé de manière encore plus serrée qu'avant. Maintenant, est-ce que ça te disqualifie de te présenter? Pas du tout. Puis les gens ont le droit à l'erreur, mais ça dépend aussi comment tu le présentes. Moi, j'avais bien apprécié il y a quelques années, Émilie Foster, qui s'était présentée pour la CAQ dans Charlevoix, à Cour de Beaupré, elle avait fait un point de presse, puis elle avait dit, là, je vous le dis tout de suite, là, j'ai déjà... Puis elle avait fait une petite liste d'affaires un peu cute, mais tu sais, c'était des squelettes cute, là. C'était pas genre, j'ai déjà fait de la prison pour trafic de drogue, mettons. Mais c'était des petites affaires. Mais je me dis, est-ce que ce serait une bonne pratique, à un moment donné, de dire... ouvertement, tout de suite, toi-même, pour gâcher le punch, parce que les autres équipes, de toute façon, vont faire des recherches sur toi.
Ouais.
Et la sortir au pire moment qui ne fait pas ton affaire.
Bien, je suis d'accord avec toi, parce que faut que tu contrôles le narratif dans une campagne électorale. Fait que tu es tout souvent de sortir en partant et de dire « Hey, regardez, moi, c'est Jean-François Fortin, puis je vous le dis, j'ai déjà eu ça. » Fait que...
J'ai déjà perdu mon permis parce que il s'est passé ça. J'ai déjà été poursuivi par un de mes locataires, puis il y a une explication à ça, je vais vous la donner tout de suite, c'est ça. Parce que sinon, tu as une épée de Damoclès au-dessus de ta tête pendant toute la campagne électorale.
Là, tu coupes l'herbe sous les pieds, en fait, à
ben
tes
oui,
compétiteurs.
Exactement.
À tes
puis
au visage.
Si t'es pas prêt à dire ça, ben en fait, t'es juste pas prêt à aller en politique.
Je pense que c'est ça le
fin mot de l'histoire. Là.
On termine en une minute. Est-ce que Bruno Marchand a bien fait de faire un appel à la majorité hier?
Ben oui, parce qu'il est premier dans les sondages. Il se sent quand même confortable, mais pour bien gérer une ville, t'as besoin d'avoir des conseillers de ton bord.
Oui.
Hein.
Et surtout que Bruno Marchand, avec le projet de tramway, a besoin d'être majoritaire, on se le cachera pas.
Absolument, mais les gens... Bon, la dernière fois, M. Marchand est allé rechercher aussi des conseillers municipaux dans d'autres partis. Il s'est construit une espèce de majorité. Mais c'est la manière dont les villes sont faites. Tu sais, au provincial, toi, tu es chef de parti, c'est toi qui as le plus de sièges, c'est toi qui deviens premier ministre.
Ouais.
Au municipal, c'est pas ça. Les gens votent pour le maire et votent pour les conseillers de manière complètement indépendante. Et on a vu souvent des villes qui ont un maire qui n'a pas la majorité des conseillers autour de la table. Je peux penser à Sherbrooke et à Gatineau dans les dernières années, puis ça a fini en démission d'ailleurs. Parce
ah
que
oui, puis la machine est vraiment au ralenti. Cela dit, est-ce que c'était judicieux que Jean-François Gosselin écrive sa lettre pour dire « Hey, votez pour le conseiller de Bruno Marchand parce que vous allez être du bon bord. » Tu sais, le fameux oui, bon bord en politique. Là. Ah, moi, j'aime
c'est
pas s'entendre ça.
Duplessis un peu. Là,
ben, c'est parce que, tu sais, c'est
voulez-vous
c'est comme...
des routes puis des laveuses?
Ben, c'est parce que je sais pas. Moi, tu sais, si dans mon coin, c'est un candidat de leadership Québec, Québec d'abord, respect citoyen qui est élu, ouais, on va-tu laisser tomber le parc parce que c'est pas le bon conseiller?
Non, ben c'est ça. Ça, c'est un mauvais message à envoyer. Par contre, c'est de bonne guerre. Tous les partis qui sont premiers dans les sondages, à un moment donné, se disent, là, donnez-moi une majorité, parce qu'on va pouvoir faire plus d'affaires. Puis que, tu sais, évidemment, il faut pas dire, c'est sûr, si vous votez pas du bon bord, vous aurez pas votre complexe sportif. Là, ça fonctionnerait pas.
C'est ça.
Mais ça fait partie, en fin de campagne, des appels au vote qu'on va entendre. Puis, tu sais, si j'étais Stéphane Lachance puis que j'étais pas pognée dans des histoires d'étiquette, je ferais aussi un appel à « Donnez-moi l'opposition, je serai un chef de l'opposition. » Parce que ça, là, contre Sam Ahmad, c'est meilleur comme message que de dire « L'autre est pas fin, c'est lui qui m'a promis ça, puis on est en chicane, puis on se poursuit. »
Est-ce que ça donne l'image de quelqu'un qui pense perdre ou de juste quelqu'un de lucide en se disant, ben, au moins, je vais chercher l'opposition en étant plus fort?
Ça, c'est un débat éternel parce que c'est vrai que tu ne veux pas concéder la victoire à M. Marchand aussi facilement, mais à un moment donné, il faut être lucide. Et de dire, tu sais, ton message, ça peut être, moi, je veux être votre mère, mais si vous hésitez entre moi et Sam Ahmad, votre vote pour moi, il va faire plus de chemin parce que même si, c'est pas ça que je souhaite, mais si je devais perdre, je vais quand même vous représenter.
Oui, je comprends.
Puis je vais me battre pour vous. T'sais. Donc, moi, je trouve que ce serait un bon message d'appel au vote à faire. Bon, pour réussir à passer ces messages à soi, il faut arrêter d'être embourbé dans des problèmes. Là,
dans des problématiques. Et là, ben, c'est ce qui arrive à l'heure actuelle avec les allégations d'irrégularité de la semaine dernière qui ont été corroborées de toute façon par Respect Citoyen. L'avouer qu'on a rencontré M. Ahmad et qu'on était prêt à lui offrir des choses. Et là, l'étiquette, ça s'embourbe, cette campagne-là. Il y a eu les taxes impayées au début. Oui. Donc, ça s'embourbe. Ça s'embourbe pas à cause de l'acharnement. Ça s'embourbe à cause des gestes posés par le chef de Respect Citoyen et les dirigeants du parti.
Et ça prend de la place aussi parce qu'on manque un peu de contenu dans les propositions,
ben,
sinon on pourrait au moins débattre un peu plus de ça, mais ça, c'est une opinion personnelle.
C'est une très, très, très bonne opinion que je partage. Je termine le segment du caucus, mesdames, en vous disant, jamais je me présente en politique. Christian me dit qu'il faut absolument que je confesse mon amour étrange pour un club de hockey qui est disparu.
Ah. Je pense pas que ce soit un problème si tu te présentes à Québec, mettons.
Non, ouais.
Ce serait pas.
Hein, le candidat du retour
mais moi,
des Nordiques.
Sortir, si tu te présentes, je vais dire attention. Il prend pour Toronto au baseball.
C'est vrai, ça. D'ailleurs, ça commence demain soir. Les Jays contre les Dodgers. Courte pause. On revient avec l'essentiel de l'actualité avec Pascal CV, Antonine Iaccarini. Bon week-end.
Merci.
On se reparle lundi. Profites-en bien à la météo là, pour le week-end. Il n'annonce pas de pluie et ça devrait être entre 7 à 9 degrés Celsius. On est en automne, mes amis. Donc, on revient avec l'essentiel de l'actualité avec Pascal CV. Après cette courte pause, vous êtes à l'émission d'En Jazz sur les ondes de Boulevard 102.1.
C'est la fin de semaine pour le faire. Si vous cherchez un projet, puis vous vous dites, ouais, ben là, quand il y a du soleil, ça nous tente un peu moins, mais quand il y a de la pluie, c'est le temps de magasiner quoi? Tous les accessoires pour votre véhicule avant l'hiver. Où je vous envoie? Ben là, chez Pièces d'auto économiques, la question se pose très peu, en fait, parce que c'est le leader au Québec pour les pièces d'auto et accessoires. Avec Martin qui est là pour aller vous dénicher les meilleures marques, juste entre autres, là, pour l'entretien de votre véhicule. Il y a plus de 20 marques de pneus, d'essuie-glaces, de batteries et d'alternateurs chez Pièces d'auto économiques. On a 3 magasins. Ben, ici dans la région, mais on a 9 partout au Québec et un site transactionnel. Alors, il n'y a pas vraiment de possibilité de manquer votre chance, entre autres d'économiser jusqu'au 31 octobre parce qu'on a décidé de vous faire une grosse promotion. Vous économisez gros avec pièces d'auto économiques sur quoi? Ben, sur 10 % de rabais sur les disques de frein de première qualité. On parle des Brake Max à forte teneur en carbone. Ça, c'est pour un freinage beaucoup plus en douceur, assez rapide et efficace. Profitez aussi de 15 % de rabais sur les plaquettes de frein Bosch et 15 % de rabais sur les essuie-glaces Bosch Clear Advantage. Il ne faut pas attendre à la dernière minute parce que la mise au point de votre véhicule, en fait, c'est pour votre sécurité, celle de votre famille, celle de vos concitoyens sur les routes, mais c'est surtout pour des rabais. Et ça, c'est maintenant jusqu'au 31 octobre, je vous répète. Alors, pièces d'auto économiques, les plus grandes marques, des pièces neuves, garanties, au meilleur prix. Pièces d'auto économiques en succursale dans les 9 magasins partout au Québec ou encore pièceséconomique.com.
En ce moment, chez vos concessionnaires Honda.
Il est précisément midi 43 minutes. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1. C'est l'émission On en jase avec Jeff Fortin et Pascal CV. Pascal, ça bouge dans cette campagne électorale municipale. Qu'est-ce qui se passe? Là? Stéphane Lachance a dit plus de Radio-Can, plus de soleil. Vous parlez trop contre moi.
Boycott. Il n'est pas content de la couverture médiatique qui est consacrée en fait à son parti puis à lui-même. Donc, il a décidé, Stéphane Lachance, de Respect citoyen, de ne pas inviter Radio-Canada et Le Soleil. C'est au moins deux médias qui n'ont pas été invités au point de presse qui est organisé ce matin. C'était dans son local électoral, dans le quartier Sillery. Marc Roussin, qui est directeur de la campagne, a confirmé le tout. Donc non, on n'a pas eu d'invitation. Peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qu'on annonce, qui en ressort, c'est uniquement du salissage. Ouais. C'est ça qu'il a dit, Marc Roussin, plus tôt ce matin. Donc, selon la gang de Respect citoyen, c'est non aux journalistes qui ne rapportent que le négatif des points de presse. Alors, il dit que c'est une question de confiance, puis égratignée.
Et voilà. Si les animateurs d'une autre station de radio très populaire à Québec veulent être conséquents, ils vont dire à Stéphane Lachance, tu ne peux pas faire ça parce qu'ils critiquent toujours Bruno Marchand de ne pas aller sur leurs ondes. Penses-tu que ça va arriver?
Mais moi, je pense pas que ça va arriver avec une sortie comme ça ce matin. Mais c'est comme nouveau un peu, là, je trouve.
Oui, on boude des médias.
Habituellement, il y avait plus de chicanes. Donc, ça se pointait du doigt,
ça se disait.
Moi, je me rappelle d'un Régis Labeaume qui, quand je travaillais dans notre radio, c'était condition sine qua non. On refuse toutes les entrevues de cette station-là. Ouais. À un moment donné, il a flippé. C'est sûr qu'il y avait eu des enjeux un peu juridiques là, en cours avec un animateur, entre autres, là, mais il boudait assurément la station pour laquelle je travaillais. C'était dit, c'était chicané. Mais là, quand on vient avec des annonces, des points de presse, je trouve qu'on fait encore de la politique.
Oui, exactement. Vous manquez l'opportunité. Stéphane Lachance manque l'opportunité de s'expliquer devant des journalistes et de gagner du capital d'intérêt à autres personnes que sa base électoraliste.
Dans les autres nouvelles, entre autres dans les faits divers, il y a une personne qui a été grièvement blessée. Agression armée dans Lobinière, en fait. C'est un groupe d'individus qui se serait introduit dans une résidence dans cette petite municipalité de Lobinière. Et on s'en est pris aux occupants. 23 heures hier, les policiers de la Sûreté du Québec qui ont été appelés sur la rue Fauché. Ça, c'est à Dosquet. Selon la SQ, il y a plusieurs suspects qui ont entré justement pour agresser les occupants. On sait qu'il y a une personne qui a subi des blessures graves. Elle a été transportée dans un centre hospitalier. Heureusement, on ne craint pas pour sa vie. Les suspects, eux, ils ont pris la fuite avant l'arrivée des policiers, ce qui fait qu'aucune arrestation n'a eu lieu dans le dossier. L'enquête est entre les mains de la Division des crimes majeurs en collaboration avec le service d'identité judiciaire. Toujours, si vous avez de l'information, eh bien, appelez les policiers. D'autres coups de feu du côté de Lévis.
Ah oui, j'ai vu ça. Donc,
des coups de feu qui ont été tirés à nouveau dans une résidence, devant la résidence de Lévis. Ça s'est fait hier soir. C'est 5 jours à peine après un événement similaire. Ça secoue les quartiers, là. On peut le dire. Puis l'événement similaire qui s'était passé il y a 5 jours, c'était dans un quartier assez cossu là, de la municipalité de Lévis. Là, cette fois, les projectiles ont été tirés dans la fenêtre, littéralement, d'une demeure de la rue des Prunelles. C'est dans le secteur de Saint-Jean-Chrysostome. Et au passage du Journal de Québec, il y a 2 impacts de balles qui sont encore visibles. Il n'y a pas de spéculation. C'est le cas. Il y a eu des balles dans la fenêtre. On dit qu'on a entendu les 2 détonations. On pensait que c'était un appareil ménager qui avait sauté quelque part dans la maison. Et il y a une voisine qui a été étonné d'apprendre que c'était ça. Donc, il y a une crainte, assurément, dans le quartier. Il y a un périmètre de sécurité qui a été mis en place cette nuit pour essayer de voir, en fait, qu'est-ce qui s'est passé puis analyser la scène. Enquêteurs, services d'identité judiciaire qui se sont rendus sur place. On dit qu'on va rencontrer le plus de témoins possible. D'après les voisins, l'homme qui a été visé par les projectiles, là, c'est un père de famille séparé, tout à fait ordinaire. Il vivrait depuis des années avec son jeune fils à temps partiel. Tu vois, il y a des décorations d'Halloween personnes.
On a-t-il encore une erreur sur la personne?
Écoute, la question se pose. On attend plus d'informations. On n'est comme pas très clair dans ce qui se passe. Mm-hmm. On sait par contre que plus tard, en avant-midi, le SPVL a mentionné que l'événement pourrait être possiblement lié au conflit de redevance de drogue qui implique le Blood de Family Mafia puis les Hells Angels. Je vous rappelle que vendredi dernier, c'est une maison du quartier Cossu là, que je vous parlais dans Saint-Nicolas, qui est encore pour une raison inconnue visée par ces balles-là. Donc, personne n'a été blessé. Qu'est-ce qui se passe? On verra. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux événements? Ben, le corps de police n'est pas en mesure de relier les deux événements pour le moment.
Pascal, t'es-tu moins fatigué qu'en fin de semaine passée?
Ah oui, un peu, oui.
Ah oui, hein,
je commence
ça va
à
mieux,
reprendre.
Hein?
Ouais,
good, après ta ascension sur Kilimanjaro. Ben, c'est parfait parce qu'aujourd'hui, c'est quelques averses, mais en fin de semaine, il va faire beau.
Ah, ben là!
7 degrés vendredi, 9 degrés samedi, 9 degrés dimanche.
Ça a changé parce que c'était de la pluie.
Oui, c'était de la pluie et là, ça a changé. Tu sais, les belles couleurs d'automne.
Oui.
Ça va être une belle fin de semaine. Je regarde.
C'est la dernière, moi, je crois.
Oui, oui, ben je regarde derrière toi, là, puis là, il y a des arbres qui ont perdu des feuilles, mais il y a encore des beaux arbres rouges.
Oui, puis j'ai l'impression que cet après-midi va pleuvoir, là.
Oui.
Ah oui, oui, c'est...
Ah oui, tu trouves que c'est gris, voyons donc. Hey, il nous manque un peu de soleil, j'ai une patience, ça n'a pas de bon sens. Une équipe, par exemple, qui a du soleil, c'est le Canadien de Montréal.
Oui.
Ce qui permet à New Hope de reprendre. New Hope qui est là avec Demidoff. C'est lui qui a la rondelle. Demidoff, dans l'enclave. Demidoff, toujours. Parti!
C'est moi qui ai enregistré l'extrait, puis il y avait un petit LCN en arrière.
OK, t'as vu mes yeux. Moi, je t'ai attiré dans la nouvelle, assurément.
J'ai fait une petite erreur technique. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est un but de Mike Matheson hier en prolongation qui a donné la victoire aux Canadiens 2-1 sur les Flames de Calgary. Les Canadiens ont 6 victoires et 2 revers depuis le début de la saison.
Rien pour arrêter les fans du Canadien.
Rien pour arrêter.
Vous êtes crinqués, là.
Rien pour arrêter, mon gars. Qui avait son gilet de Demidov hier. Quand Demidov a marqué, peut-être la passe, il a sauté dans les airs. Papa, regarde, mon Canadien encore gagné. Là, en ado de 16 ans, qui s'est fait 2 toasts. Il a mangé ça au son de la victoire.
Mais honnêtement, c'est un bel automne de sport, là.
Ben oui.
Hockey, football, baseball.
Mais, et parlant de baseball, Pascal CV, t'as commencé la série sur Netflix qui a tué les Expos.
Hey, c'est tellement bon. Là. Hey. Puis tu le sais à quel point, moi, le sport, j'aime ça, les histoires. Le foot m'a intéressé pour les histoires d'abord et avant tout. Et là, faut le dire, les Expos de Montréal. Moi, je me faisais raconter à quel point c'était hot de monter de Québec en famille, dans petite voiture pour aller voir les Expos de Montréal. À quel point en 94, c'était une saison exceptionnelle. Je veux dire, moi, je naissais en 94. Vous me le faites vivre, là. C'était quoi la folie des Expos? Fait que le documentaire qui est disponible sur Netflix, qui est fait avec plein d'influents joueurs de ces années-là, et surtout qu'il y a une intrigue qui m'intéresse. Qui a tué les Expos de Montréal? Pourquoi ils ont quitté la ville, c'est à écouter.
Ah,
On a-tu la bande-annonce?
Ben, c'est ça, je ne sais pas pourquoi le son ne fonctionne pas. On va tenter de la mettre tantôt.
Ben oui, il n'y a pas de problème. Entre autres, Chantal Maccabé, Jérémy Filosa, tu as plein de commentateurs sportifs aussi qui ont fait des marches avec les fans pour les garder. Puis là, je ne sais pas sans vous rappeler que des investisseurs américains avaient acheté la franchise puis les a fait déménager.
Moses de Geoffrey.
Mais vraiment intéressant. Là. Penchez-vous là-dessus.
Et d'ailleurs, on a un passionné de sport avec nous en nombre, fait que ça fait un très bon lancement pour cette entrevue. François Beaulé, les candidats dans Saint-Rodrigue pour le parti de Leadership Québec. On l'a connu comme animateur à la radio, comme spécialiste en sport. François, comment ça va?
Hey, ça va bien, Jeff. Bonjour, Pascal.
Salut.
Super bien. Hey, les Expos de Montréal. T'en es-tu les Expos?
Hey, j'allais là 3 fois par semaine.
Trois fois par semaine?
Absolument.
Je peux-tu poser une question ingrate?
Ah, vas-y.
Peut-être pas très disgracieuse, mais à quel âge?
À quel âge que quoi?
3 fois par semaine.
Oui. Ben, les années, écoute, les années 80. Moi, j'ai commencé à quoi? À CHRC en 85. Fait que, écoute, là, j'avais mon accréditation, mais ça coûtait 1 piastre s'asseoir dans les bleachers. Alors, penses-tu que j'allais voir?
Écoute... C'était-tu gros, 1 piastre dans le temps?
Non, parce que il y avait quand même quoi? Il y avait toujours à peu près 10-12 000 spectateurs au stade olympique. Fait que c'était facile d'avoir... Tu t'achetais un habillé à 1 piastre des bleachers ou tu penses que j'allais m'asseoir? Des premiers rangs. Des premiers rangs.
C'est clair.
Écoute, puis même dans les dernières années des Expos, les capitales étaient arrivées. il y a des week-ends des capitales, le total de spectateurs dépassait le total des spectateurs au Stade
Olympique. À Montréal, non, c'était triste.
Fait que tout le monde... Okay,
ouais. Ouais, tout le monde a laissé tomber, malheureusement, les expos. C'est la fameuse année 94 avec le lockout. Absolument. Là, dans le baseball fin, majeur. Ouais. Ah.
Mais c'est intéressant là, de voir que les joueurs étaient payés en dollars américains, puis ça a vraiment miné, en fait, le baseball à Montréal, parce que ça coûtait extrêmement cher, puis ils perdaient des millions de dollars annuellement là, à tenir un peu les expos en vie, même si les fans étaient là, c'était pas rentable.
Exactement. Puis en 95, malheureusement, le Claude Brochu a décidé de vendre les joueurs à rabais au lieu de tenter
On peut-tu prendre un 20 secondes là-dessus avant de parler de politique?
Ben oui,
c'est rare que je fais ça du sport avant la politique. Ben mais comment est-ce qu'on voyait ça? Parce que dans le documentaire, on dépeint vraiment que Brochu était mal aimé, était même détesté. Tout lui tombait sur la tête, sur les épaules. Est-ce qu'on avait une autre vision quand on couvrait tout ça?
Non, écoute, c'était le talk of the town que Claude Brochu a littéralement, comme on dit, vendu à perte les joueurs des expos. Puis ça a été la débandade totale. Puis quand l'offre de Jeffrey Lauria est arrivée sur la table, il n'y a pas eu le choix.
Mais on n'a pas vu un peu... Il n'y avait pas de compréhension du fait qu'on perdait tellement d'argent que si on continuait de les payer...
Ouais, mais quand t'es fan de sport...
Il y a un sourire.
Quand t'es fan de sport...
Écoute,
t'as une équipe gagnante.
Mais c'est parce que c'était pas juste d'aller voir jouer les expos. C'est que les adversaires, il y a des joueurs spectaculaires là-dedans.
Oui.
Hey, tu sais, quand t'allais voir José Canseco avec les bras gros comme ça, là,
t'allais
voir Mark McGwire, t'allais voir Barry Bonds, t'allais voir Pete Rose, etc., etc. Fait que, écoute, là, c'était non seulement d'aller voir les joueurs. Ben, écoute, Gary Carter, évidemment, était l'attraction
André
en
Dawson,
soi.
André Dawson.
Et,
le 94, on Larry Walker.
Qui, tu sais qu'avec le terrain synthétique au Stade olympique, quand la balle était frappée d'aplomb, une flèche en coup sûr au champ droit, Larry Walker striquait un go au premier but.
Un saut,
il avait le temps de striker le go au premier but.
C'était malade. Hey, écoute, on pourrait partir, moi et François, on pourrait faire un podcast.
On a-tu l'après-midi, Denis Gravel, pour aller se reposer?
Il n'y a plus de retour de Gravel, on parle de baseball.
On est en campagne électorale, on va la finir. Puis après...
Pascal,
quoi?
Campagne électorale, c'est du sport.
Honnêtement, c'est la première fois de ma vie où je suis en train de mettre plus de place au sport qu'à la politique.
Ben oui, mais je comprends.
Reprenons cette conversation-là plus tard.
Ben oui, nos amours, qu'on les appelait.
Ben
les expos, nos amours.
Ah oui, les expos, nos amours. J'allais là chaque dimanche après-midi avec mes parents.
Et la cerise sur le Sunday, pour des nostalgiques comme nous, Jeff, l'Avalanche qui, ce soir... va jouer avec le chandail des Nordiques.
Contre les Hurricanes avec le chandail des Whalers d'Hartford. Hey, ça te rappelle Kevin Dennin, Ron Francis, les Stachny.
Là, ça va trahir mon âge en tabernacle. Mon sac, c'est un chiffre. J'ai encore...
Vous n'avez pas répondu tantôt, là. Je m'en souviens. Là.
J'ai encore la cassette d'Alain Crête sur la description du but de Peter Stachny en prolongation contre Mike Liu.
Hey, là,
Rochefort derrière son filet. Prends la rondelle. À la ligne bleue. Ah, Peter, ça va, seul devant Liu. Go! Le toit du Colisée.
Mais moi et mon frère, on avait une cassette, mais là, c'est de valeur, on les a plus. On avait une cassette comme ça des buts les plus importants des Nordiques. Puis on avait une autre cassette où c'était les moments les plus importants des expos. Puis on écoutait ça à répétition.
Non, parce que ça vous faisait vivre ça.
Ça nous faisait vivre.
Mais là, on est en train de faire... on vous donne une free ride, là, parce que là, tous les nostalgiques commencent à vous triper dessus.
Ben c'est ça, là, tous les nostalgiques.
On a juste assis Elvis Graton qui écoutait les expos sur la plage.
Ah oui?
C'est ça.
OK, là, on va virer l'entrevue de bord. Vous allez comprendre qu'on doit...
Allons dans le vrai sport.
On doit mettre notre chapeau d'intervieweur politique.
Steve qui écrit 25 cents, là, dog. Oh, incroyable, le petit Sunday dans le casque.
Tu peux pas aller au baseball.
Je l'avais, le petit casque de plastique.
Oui, là, il y avait le Sunday là-dedans.
Oui, tu peux pas aller au baseball, pas manger un hot dog.
Non, c'est ça. François, tu dis la campagne électorale, c'est du sport. C'est du sport, on t'a dit, là, cette année d'autant plus. Là.
Moi, je suis né dans la politique, premièrement, parce que mon père a été député à Ottawa. Fait que, donc, c'est pas compliqué. J'ai la piqûre. Puis, j'ai été impliqué en 84 comme agent officiel. J'ai fait des campagnes comme attaché au provincial. C'est la pire campagne de salissage, moi, que je n'ai jamais connue, jamais vue et jamais entendue.
Puis, tu l'expliques comment? Est-ce que c'est parce qu'il y a plusieurs voix disparates? Est-ce que c'est parce qu'il y a des éléments qui jouent pas franc jeu? Comment t'expliques ça? Comment tu vois ça, toi?
Ben, écoute, Bruno Marchand... a divisé la grande ville de Québec. C'est pas compliqué avec ce projet-là. Un Bruno Marchand qui, en 2021, a dit que ça prenait l'acceptabilité pour le projet du tramway. Sans acceptabilité, il n'y avait pas de projet de tramway. Et le voilà qu'il est maintenant le plus grand défenseur de ce projet. Alors qu'encore une fois, la majorité, une majorité de la population en veut pas de ce projet-là. Puis nous, on en fait partie chez Leadership Québec. C'est pas compliqué. Le 3 novembre au matin, le projet du tramway, il n'y en a plus. Alors...
Est-ce que vous êtes découragé? Est-ce que vous regrettez, en fait, d'être dans un parti politique en ce moment qui mène cette course municipale? Êtes-vous découragé? Avez-vous un regret?
Non.
Vous allez me dire non.
Non, pas du tout. Pas du tout, parce que moi...
Mais hors micro, mettons. Si vous allez répondre quoi?
Non, pas du tout, au contraire, parce que je suis tellement passionné. Puis moi, sur le terrain, bien que j'aurais voulu en faire plus avec mon handicap là, qui a bien commencé, hein, mon porte-à-porte en chaise roulante, c'était le fun en tabernouche, avec une fracture du péroné, mais là, ça se replace, ça va quand même pas si pire. Mais tout ça pour dire que c'est tellement pas ce qu'on ressent puis ce qu'on entend sur le terrain dans le porte-à-porte.
C'est complètement différent.
Ah ben, en tout cas, moi, je suis dans le district de Saint-Rodrigue, qui est à quoi, 3-4 minutes d'ici, et dans le secteur de Charlebourg. Puis c'est pareil pour mes collègues aussi qui sont dans le nord-est, dans le nord-ouest, peu importe.
Parce que vous êtes politicien, actuellement, vous tentez, tu sais, puis vous connaissez la politique. Nous, d'entendre que c'est complètement différent sur le terrain, on entend un langage politique, là.
Bien, on entend un langage politique, à savoir que j'ai beaucoup... Premièrement, ça, j'ai encore beaucoup d'indécis. Alors, il y a des gens qui, d'après moi, là... Depuis quelques campagnes électorales, le vrai sondage, m'excuse de l'expression anglophone, il est dans le box, il est dans la boîte de scrutin. On peut avoir un aperçu d'un sondage, mais depuis quelques campagnes électorales, puis on l'a vu encore avec la dernière campagne fédérale, non pas l'élection au provincial dans Arthabasca, mais vraiment la dernière vraie campagne fédérale, où ça a complètement viré de bord, où Carney devait totalement faire une razzia contre Pierre Poilievre, puis finalement, il est rentré minoritaire. Alors,
ça vous encourage, parce que vous pas présentement, vous êtes en retard dans les sondages Leadership Québec. Bon, là, je vois que vous accélérez le pas avec plusieurs annonces. Est-ce que vous faites trop d'annonces contre? Moi, je vois qu'il y a trop d'annonces contre. Hey, je suis contre le foyer, hey, je suis contre la piste cyclable. T'es contre les politiques de marché, non pas.
Monsieur Fortin, vous parlez de contre-marchand.
Oui, c'est ça, exactement. Excusez-moi, merci de préciser, madame CV. Et pas nécessairement d'annonce pour.
Écoute, Bruno Marchand, ça fait à peu près 10 000 12 annonces qu'il fait depuis un mois. Ben, pour moi, c'est un aveu qui n'a pas fait grand-chose dans les 4 dernières années. Et j'aime Sam Hamad quand il dit « Bruno Marchand actuellement fait une campagne contre Bruno Marchand. » Bruno Marchand fait des annonces de ce qu'il n'a pas fait dans les 4 dernières années. Vite comme ça, à vitesse de l'éclair, donnez-moi un grand projet que Bruno Marchand a fait dans les 4 dernières années. Je parle d'un grand projet.
Non, ben en effet.
C'est des pistes cyclables. Et à Québec actuellement, il dit qu'il ne fait pas la guerre aux automobilistes. Partout où tu passes depuis à peu près quoi? Mi-avril, fin avril, tu roules un détour. Whoop! Encore un détour. Whoop! Encore un détour.
Mais j'aime la question de mon collègue Jean-François Fortin. Ouh, parce qu'il demande, vous répondez.
Maman
ne
m'a même
moment,
pas jamais appelé de moi.
Stéphane Lachance et M. Hamad, les deux répondent souvent aux annonces de Bruno Marchand, mais on manque de chair autour de l'os pour bien voter aux prochaines élections municipales. On nous l'écrit souvent au 88-971-102 en disant « OK, mais quelles sont leurs annonces à eux de ces deux partis-là? »
On en a fait un paquet d'annonces. On les retrouve jamais nulle part. Pourquoi? Parce qu'à toutes les fois qu'on fait une conférence de presse, je pense que Sam Hamad s'est fâché cette semaine. Il est tanné que ce soit tout le temps de l'acharnement, de l'acharnement et de l'acharnement.
Mais quelles sont-elles, ces annonces-là, justement? Là,
alors,
t'as l'opportunité.
Quand il s'est présenté, tout de suite, il a annoncé l'abolition de la fameuse taxe de 60 $ sur l'immatriculation, parce qu'avec Bruno Marchand, il augmente la taxe, puis il va l'atteindre, son fameux 90 $, lui, au bout de 4 ans, là, si on vote pour Bruno Marchand. OK? Après ça, on donne un crédit sur l'achat d'une première maison de 400 000 $ et moins pour la première fois à Québec. On donne un crédit, là, t'as pas le droit d'enlever la taxe de bienvenue, mais t'as le droit quand même de donner un crédit sur l'achat. Après ça, maintenant, il y a des étalements sur 12 mois pour payer ta maison
puis ça va être sans intérêt.
Sur les taxes. Il y a des frais d'intérêt actuellement. On enlève les frais d'intérêt. La fameuse taxe minou, la taxe sur les chats. Oui, c'est juste 13 $, c'est quand même encore une taxe. Mm-hmm. Et avec Bruno Marchand, faut pas se leurrer, là. La fameuse taxe du 0.3 cents sur l'essence, il va finir par l'avoir. Ça en est encore une autre, ça, une taxe. Alors, finalement, quand c'est honteux d'avoir été déclaré hier, je veux qu'on me donne un mandat clair, un mandat majoritaire sans opposition. J'espère que tout le monde s'est content encore, puis qu'un plus un, ça fait encore deux. Là.
Comment vous allez mettre, vous, avec le parti, de l'argent dans le coffre, si jamais vous êtes élu?
Bien, on veut encourager le reprenariat. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont, beaucoup de sièges sociaux qui sont encore à Montréal. Nous, on veut que les gens viennent investir à Québec. On veut que les entrepreneurs viennent investir à Québec, qu'ils viennent s'établir à Québec. Et ça, évidemment, bien, ça amène de l'argent supplémentaire s'il y a des entreprises qui viennent s'installer à Québec, puis à engager également, créer de l'emploi, engager. Et ça, puis parlant d'emploi, justement, écoutez, là. Le projet du tramway va engendrer 80 000 embauches. Tabarnouche! On n'est même pas capable d'engager du chauffeur au RTC. Bon, on pense qu'on va créer 80 000 emplois dans la grande région de
Donc,
Québec.
On ne croit pas à ça, là, du côté du Leadership Québec.
C'est lancé toutes sortes. Il est rendu à 87 millions en annonces. C'est de l'argent. Et là, la dernière, 1 milliard pour le centre, pour le nouveau centre de l'incinérateur. Avec l'accord des gouvernements. Ah oui? Est-ce que Joël Lightbound t'a signé une lettre? Est-ce que Jean-François Simard vous a signé une lettre pour dire avec l'accord des gouvernements? Et lui-même ne sait même pas combien va coûter l'investissement de la Ville de Québec pour avoir un nouvel incinérateur.
Comment on devient attirant pour les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les entreprises en tant que ville? Est-ce que vous allez les attirer?
Bien, je pense que M. Hamad, avec l'expérience ministérielle qu'il a et l'expérience de politicien qu'il a, il est capable de s'asseoir avec ces gens-là, présenter des plans et écouter qu'est-ce qu'ils auraient, eux, à présenter ou à tout le moins, ou à quel endroit ils pourraient s'installer et développer dans la grande région de Québec. Et avec, entre autres, justement, ce qu'il avait réussi à amener, lui, la promenade de Champlain, puis même, il y a un autre plan pour l'amener vers la baie de Beauport pour faire la phase 4. Puis il y a tellement d'éléments où il peut s'asseoir avec ces entrepreneurs-là et présenter toutes sortes de points de vue et ensemble, tout le monde, bien, venir créer justement un espèce de sans dire un forum, une espèce de consortium où enfin les gens pourraient avoir une confiance de venir s'installer à Québec et parler de arrêter de parler de tout le temps cette morosité que oui, effectivement, il y a des problèmes dans Saint-Roch, mais je peux vous dire qu'il n'y a pas juste dans Saint-Roch qu'il y a des problèmes d'itinérance, qu'il y a des problèmes de santé mentale. Dans le secteur de Destimoville aussi, il y a des problèmes de santé mentale.
Oui, c'est ressorti au niveau de la sécurité ce matin, dans le soleil.
Et absolument. Donc, il y a vraiment des facteurs où on se doit quand même de parler positivement parce qu'on en a des beaux événements. On parle du festival. Tu sais, on parle du festival d'été qui est un événement tout à fait incroyable. On parle du tournoi international de hockey Pee-Wee. Il y a le carnaval de Québec. Bref, il y a des activités où c'est le fun à Québec, puis on peut davantage... On avait le fameux le Red Bull Crash Test qui était d'une retombée internationale incroyable. Alors, je pense que Québec, on est capable de faire rayonner Québec à nouveau, et c'est certainement pas en installant strictement des pistes cyclables qu'on va être capable de faire rayonner Québec davantage. Et d'ailleurs, pour fermer la parenthèse sur la guerre aux automobilistes, toutes les artères principales à deux voies actuellement dans Québec, on est en train de les fermer à une voie, et je prends le dernier exemple, Perle-Lièvre, pour justement installer des corridors cyclables de chaque côté. Alors ça, à un moment donné, il faut que ça arrête. Là. Quand on dit que c'est pas vrai qu'on fait la guerre aux automobilistes, bien, je m'excuse, les exemples sont très concrets. Puis nous, ce qu'on veut faire, on veut arrêter. Là. Il y en a beaucoup trop qui ont été installés en même temps. Nous, on veut arrêter ça. On veut analyser la chose. Puis chose certaine, c'est qu'on va favoriser la sécurité de tout le monde, autant des automobilistes que des piétons. On va déneiger, déglacer, puis on va entretenir les rues et les trottoirs avant d'entretenir et dégager des pistes cyclables, à l'exception, puis ça, M. Hamad, il était très clair là-dessus, autour de l'Université Laval et des cégeps. Yep. Ça, il y a possibilité, effectivement, qu'on puisse entretenir ce coin-là.
Quelques petites dernières questions à rafale. Stéphane Lachance, sur ce qu'il a fait sa sortie, pour dire on a fait une offre à Sam Hamad. Comment on a pris ça du côté de Leadership Québec? Puis comment, toi, tu as pris ça en tant que candidat de Saint-Rodrigue, de savoir que Stéphane Lachance voulait peut-être te tasser de là puis mettre son candidat à la place?
Bien... Tu sais, on se fait... Je veux pas m'élaborer trop longtemps puis recommencer un débat là-dessus. Chose certaine, nous, on n'a pas parti de chicane. On n'a pas parti de chicane. Il y a quelqu'un du côté de Respect Citoyen qui est allé sur toutes les plateformes médiatiques puis qui a dit qu'il était prêt à faire n'importe quoi.
Marc Roussin.
Name it, pour que M. Hamad se retire de la campagne électorale comme candidat à la mairie. Alors, nous, le parti a réagi. On a appelé le bureau du DGAQ. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, puis ça s'est arrêté là. Yeah. Alors, point final, pour moi, je ne considère pas qu'on a parti une chicane où mon père est plus fort que le tien ou une guéguerre. Le parti a fait tout simplement ce qu'il avait à faire, puis j'en suis très fier de ce que notre parti a fait là-dessus concernant cette décision-là.
Reconnaissez-vous que le début de campagne a été plus difficile de votre côté, Leadership Québec?
Bien, tout le monde l'a avoué, le chef en premier. Malheureusement, oui, il y a eu des petites erreurs de communication, de publication, puis c'est bien plate. Oui, puis c'est choquant, puis oui, c'est frustrant, puis non, ça n'aurait pas dû se passer de même, mais au moins, on l'a avoué. On n'a pas dit, on l'a avoué, ça a été des erreurs. Mais là, on peut-tu passer à page 2? Peux-tu tourner la page 1, passer à page 2? Puis nous, les gens peuvent aller voir en passant sur leadershipquebec.ca, on peut aller voir notre plateforme, ce qu'on a à présenter, puis on en a dans tous les secteurs des éléments à présenter. Puis même moi, dans mon district, dans Saint-Rodrigue, j'ai été arbitre de baseball jusqu'à il y a 2 ans, j'ai été arbitre de baseball. Puis je peux dire que des terrains de baseball dans la grande ville de Québec, là, ça a besoin d'amour. Et ça, pour moi, dans Saint-Rodrigue, il y en a des terrains de baseball, entre autres le parc Maurice Lortie,
oui.
Ça a besoin d'être fait. Puis également, la sécurité routière, là, la 46e rue, là, nous, là, c'est rendu un boulevard. C'est incroyable. Ça roule extrêmement vite. Alors ça, il y a de la sécurité à
la routière.
Il y a des mesures à prendre de ce côté-là aussi.
Je vais laisser la dernière question à Pascal parce que je suis un homme galant, Pascal. Mais avant que tu poses ta dernière question, j'en ai une dernière pour François Beaulé. Qu'est-ce qui différencie Leadership Québec de Respect Citoyen?
C'est parce qu'on a tout simplement une meilleure plateforme. On a une équipe, mais moi, j'ai appris à connaître 20 autres collègues là, tout à fait extraordinaires dans chacun de leurs districts. Ils travaillent extrêmement fort, tout comme je travaille extrêmement fort. Puis on a un chef, là, faut arrêter de le considérer un vieux libéral. Tu sais, à un moment donné, là, c'est à veille d'être la faute de Saint-Forien, là, à un moment donné. On peut-tu arrêter, là? Là, M. Hamad, t'es en 2025. M. Hamad se présente pour être le maire de la grande ville de Québec, avec toute l'expérience acquise, puis avec des conseils qu'il reçoit autant des candidats que de l'équipe qui est en arrière de lui. Et il est là, je pense, pour ramener la ville de Québec là où elle doit être, c'est-à-dire qu'elle est capable d'être reconnue encore beaucoup plus de ce qu'elle est actuellement. Et Sam Hamad, surtout, est capable de s'asseoir avec n'importe quel palier de gouvernement pour obtenir ce que la ville de Québec mérite. Et c'est ça qui est primordial, c'est ça qui est important.
Moi, je me demandais, parce qu'on en parle très peu dans cette campagne municipale-là, mais il y a d'autres campagnes municipales, entre autres celle à Lévis, et normalement, on doit travailler en forte collaboration avec la ville de Lévis. Vous aimeriez travailler avec qui comme chef à Lévis et pourquoi et de quelle manière vous voulez travailler avec Lévis?
Je connais extrêmement bien Isabelle Demers. Je connais extrêmement bien Stephen Blainey. Je ne connais pas le troisième candidat.
Monsieur Bonin.
Mais je connais les deux. Alors pour moi, que ce soit Isabelle Demers, que ce soit Stephen Blainey ou si jamais c'est M. Bonin, nous, on veut travailler en étroite collaboration, c'est clair, avec la ville de Lévis. Tu peux pas travailler indépendamment avec la ville de Lévis. Et quand M. Marchand dit qu'il y a très peu de gens de la Rive-Sud qui viennent du côté de Québec, là, au lieu de prendre un vélo, là, on va prendre une voiture le matin, puis on va prendre une voiture en fin de journée, puis il va s'apercevoir qu'il y a du monde qui traverse les deux rives.
Comment on fait pour avoir de la mobilité entre les deux rives de façon efficace et surtout avoir des conversations constructives?
C'est que les deux maires doivent s'asseoir avec le gouvernement provincial. Et c'est lorsque Sam Hamad dit toujours il faut s'asseoir avec le gouvernement et de savoir qu'est-ce qui peut avantager les deux côtés. Alors, autant du côté de Lévis que du côté de Québec, qu'est-ce qui va être avantageux? Qu'est-ce qui va faire que la circulation va être fluide? Et en premier lieu aussi, on peut-tu s'arranger pour que les feux de circulation à Québec soient un peu plus synchronisés? Et en plus, est-ce qu'il y a des feux de circulation qui pourraient durer peut-être une minute et demie de plus pour désengorger justement quand c'est un peu trop encombré? Alors ça, déjà là, ça va commencer à être un avantage. Puis le fait qu'on est capable de s'asseoir avec peu importe qui va gouverner le Québec à partir de 2026, c'est de s'asseoir puis de dire « on peut-tu régler cette histoire-là de la Rive-Sud et de la Rive-Nord de Québec pour qu'enfin ça soit un peu plus fluide puis qu'on arrête d'en parler encore jusqu'à temps que les exports viennent, je sais pas, là, mais tu sais, à un moment donné...
Ça va être long, ça!
Et voilà! Alors, c'est pour ça que j'ai employé cette expression-là. Il faut qu'à un moment donné, il y ait une solution qui soit trouvée.
Il est candidat dans Saint-Rodrigue pour l'équipe Leadership Québec. François Beaulé, merci beaucoup pour ta présence en onde avec nous aujourd'hui.
C'est bien fin. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Si vous me donnez 2 secondes, l'enjeu de l'élection actuellement, beaucoup de gens n'ont pas reçu le carton. Et le carton te sert à t'informer où tu dois aller voter.
Oui, oui.
Mais tu n'es pas obligé de l'avoir quand tu vas voter.
Donc, allons sur la plateforme.
Ça te prend une pièce d'identité qui prouve ton adresse.
Parfait.
Et tu peux aller voter. Mais sinon, DGEQ, vous rentrez votre code postal, puis ça va vous dire à quel endroit vous pouvez aller voter. Et rappelez-vous qu'un vote, ça compte.
Excellent. Merci beaucoup, François Beaulé, pour ta présence en onde avec nous. Pascal, avant de passer à Rémi Villemeux, je te fais écouter ceci. Ça va être sur JE ce soir, sur les ondes de TVA.
Au début, c'était juste mon petit ami. Puis on s'en est parlé, on s'est dit, je pense qu'on serait rendu à se marier dans le jeu, là, parce que c'est un jeu, là, faut pas oublier aussi, là, c'est virtuel, là. Mais c'est réel pour moi. Puis quand je lui en ai parlé, ben tout de suite il était enthousiaste. Puis là j'ai dit que plus tard on ferait une cérémonie, mais que là j'ai simplement avec l'application coché marié.
On parle de ceci après la pause. C'est David, un homme de Québec, qui s'est marié avec son robot sur l'intelligence artificielle. Rémi Villemur veut nous parler de ceci. Il voit ça comme de la grande solitude. Je pense que je vais être pas mal d'accord avec lui.
Mais à date, je cherche ce serait quoi d'autre. Je ne trouve pas.
Non, exactement. Alors, retour de la pause, on parle de ce reportage de JE ce soir sur l'intelligence artificielle.
Cet automne, Boulevard te tient informé toute la semaine.
Oh, oui. J'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
On en jase, votre émission du midi. Il est présentement 13h19 minutes pour nous joindre. Vous le savez, 418-971-1021. On s'en va rejoindre immédiatement en direct de la grande métropole. Animateur au 99.5 et chroniqueur deux fois par semaine dans l'émission On en jase ici sur les ondes de Boulevard. Rémi Villemur, comment vas-tu?
Ah, je vais très bien, vous deux.
Ça va super bien. Rémi, on a fait jouer un extrait avant ton entrée en onde de David, cet homme de Québec qui s'est marié avec son amoureux sur intelligence artificielle. Je sais que tu m'as écrit, Jeff, ça prouve la grande solitude qu'on éprouve présentement au Québec. Veux-tu nous expliquer davantage ton point de vue par rapport à ce reportage qui sera sur TVA dans l'émission JE?
Oui, tout à fait, mais je noterais quand même au passage qu'il y a quelques années, quand on disait que ce genre de choses-là allait se produire, on nous disait « bon, c'est pas parce que c'est arrivé dans un film que ça va se produire, c'est pas parce que techniquement ça pourrait se produire, ça va se produire, ça se produit. »
Oui, quand la fiction rattrape la réalité.
Oui, et puis la personne en question, en passant, elle témoigne à visage découvert, là, donc je porte pas de jugement sur elle, sur cette personne-là, mais je dis juste que si elle va jusqu'à témoigner à visage découvert, c'est qu'elle s'assume en quelque sorte. Donc, on est rendu là, là. C'est un degré supplémentaire, je pense, d'acceptabilité sociale, disons-le ainsi. Ben oui, c'est de la solitude parce que dans un monde que j'ose encore qualifier aujourd'hui de normal, les rapports amoureux, les rapports d'amitié, les rapports charnels, finalement, on les entretient avec des êtres humains. Hein? On est d'une espèce en particulier. Donc, on trouve des êtres humains autour de nous qui ont les mêmes besoins que nous, les mêmes envies, et on les rejoint et on fait de cette personne-là une relation. Et quand ce n'est pas avec des humains, ce sont avec des animaux. Mais en tout cas, c'est des êtres vivants, tout simplement. Et là, on a des gens qui ne trouvent pas ces gens-là autour d'eux parce que sinon, ils n'auraient pas besoin d'aller les chercher en ligne. Ça, c'est la première explication. La deuxième, c'est on sort de la solitude deux secondes, c'est le fait qu'on soit tellement désormais habitué de configurer notre vie comme on l'entend. Pensez à Netflix. Vous dites à votre blonde, un soir, on regarde un film. Il fut un temps où on allait dans un magasin, on cherchait les films chez Vidéotron. Oh, le film n'était pas disponible. On en prenait un autre, puis on passait à autre chose. Aujourd'hui, on peut tout trouver. Puis si on ne le trouve pas sur Crave, Prime, Netflix, Disney, on le pirate. Donc, on est habitué de configurer notre vie de façon à ce que la vie nous obéisse, finalement. Alors, quand on ne rencontre pas la bonne personne, puis la bonne personne, ça ne veut pas dire la personne qui est faite pour nous, ça veut dire la personne qui remplit toutes les exigences et, j'ose le dire, même les caprices qu'on a, on la retrouve en ligne, cette personne-là, puis on la bâtit avec un algorithme. Mais on voit bien que c'est quand même assez frette, là, au final.
Mais ça, j'adore aussi cette deuxième proposition de compréhension là, dans la situation, parce que d'abord et avant tout, merci à cette personne-là de s'être livrée, parce que ça nous permet de mettre le doigt sur quelque chose qui existe pour vrai. Combien de gens le vivent, la question demeure, mais quand même, c'est vrai, c'est tangible. La première, qui est la solitude, assurément, les gens ont de la misère à entrer en communication avec l'autre. Des fois, on est un petit peu mésadapté social, c'est encore plus difficile de prendre le pouls d'eux. Il y a plein de sexologues qui parlent aussi des difficultés des générations plus jeunes d'avoir de la sexualité parce qu'ils sont tellement habitués de l'avoir par rapport à un écran, avec un écran, que le toucher, sentir la personne, voir la personne devient stressant quand tu arrives pour avoir des relations sexuelles. Il y en a plein qui réussissent même pas à bander, disons-le comme ça. Mais le deuxième point que tu amènes dans la conversation, le manque de compromis, la difficulté à faire des compromis avec quelqu'un d'autre parce qu'on est habitué à avoir la possibilité de exactement répondre à nos besoins, peu importe la situation maintenant en 2025. Je pense qu'elle, elle est hyper importante. Puis elle nous ramène aussi au débat qu'on vit en société. On a de la misère à débattre, on a de la misère à comprendre ce que l'autre veut nous dire, comment l'autre pense, puis surtout à le respecter. Est-ce que ça a à voir dans le fait que certains s'attachent à des robots parce qu'ils vont dire oui, puis ils vont faire ce que tu veux?
Quand vous posez la question là, à quelqu'un qui est issu d'une autre génération, pensons aux gens de 60 ans en montant, puis vous leur demandez de vous raconter leur histoire d'amour ou comment ils ont rencontré la personne qui a été la personne de leur vie, souvent, ces gens-là, assez rapidement là, dans le processus d'explication, vous décrivent jusqu'à quel point l'autre personne, elle les a fait avancer. Mm-hmm. Donc, moi, il me manquait quelque chose dans la vie. Cette personne-là, elle m'a fait réaliser ceci. Il y avait... Avant, il y a une compréhension de l'importance du compromis. On trouvait un sens dans le fait que la personne, elle construit la moitié qui nous manque dans notre personne. Puis aujourd'hui, ce n'est pas ça. Puis dans le témoignage qu'on va regarder ce soir à TVA, la personne en question qui se livre à visage découvert, elle va jusqu'à dire qu'elle a averti son mari, qui est un robot conversationnel, qu'il ne pouvait pas remplir tous ses besoins. Donc, par exemple, ses besoins sexuels, il s'autorisait, avec évidemment l'approbation du robot, à aller les obtenir dans le monde dit réel. Donc, on a quelqu'un, finalement, qui ne trouve pas dans le monde réel la personne qui peut répondre d'un point de vue strictement sentimental, tu sais, à ce qu'il attend d'un discours intellectuel. Le besoin charnel, il va le chercher ailleurs, mais pour encore combien de temps? Pour encore combien de temps? On les voit, les vidéos sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, de ces robots physiques là, dans lesquels on peut leur rentrer un doigt dans la bouche, puis on peut jouer avec ces robots-là. Ça s'en vient. Puis je ne veux pas être un prophète de malheur, je vous le dis juste, ça s'en vient, acceptez-le.
Mais ça, c'est intéressant. Puis Jeff et moi, on parlait du Japon, qui est précurseur, en fait, souvent dans plein de tendances sociales. Puis celle de la solitude a été remarquée il y a plusieurs années, la difficulté d'entrer en contact. Il y a plein de jeunes qui s'enferment dans leur chambre. Il y a eu plein de reportages là-dessus et veut pas, ça s'en vient ici. Puis eux choisissent effectivement beaucoup plus le rapport robotique, là. Le charisme robotique, je sais pas, le romantisme robotique.
Oui, bien, au Japon, il y a un ministère de la solitude. Il y a ça dans d'autres pays scandinaves également.
Ah, moi, je savais pas ça, ouais. C'est donc bien intéressant. Ouais.
Il y a un ministère de la solitude parce que, bon, en Japon, il y a toute une série de données là, qu'on peut croiser ensemble. Faible taux de natalité, il y a plus d'hommes que de femmes. Il y a le fait que les hommes travaillent énormément, donc les enfants restent souvent tout seuls à la maison, les femmes, même chose. Il y a un excellent film du réalisateur Iñárritu qui s'appelle Babel, qui a été fait il y a quelques années. Brad Pitt joue là-dedans notamment. Et ce sont trois histoires qui se recroisent. Et l'une de ces trois histoires-là se déroule au Japon. Puis si vous voulez comprendre c'est quoi le Japon, la solitude dans les grandes villes, Tokyo notamment, allez regarder Babel. Ça donne froid dans le dos.
Je vais regarder ça avec intérêt, Rémi Villemur. On parlait de compromis tout à l'heure. Est-ce que François Legault va faire le compromis ultime pour son parti, c'est-à-dire se retirer pour laisser la CAQ en vie, ou il va tenter le tout pour le tout, malgré le sondage d'hier dévastateur pour lui?
Alors moi, je vous dirais une chose, je suis très content de voir les mois filer comme ça, parce que ça fait déjà un an et demi qu'on parle de ça, puis ça fait déjà depuis un an et demi que je dis que moi, il va rester. Il va se représenter aux prochaines élections. Et là, à chaque fois qu'un mois passe et que je peux arracher une page du calendrier, je me rapproche du triomphe.
Pourquoi tu es si confiant dans ta prédiction?
Alors, il y a deux arguments. Et il y en a un qui est relativement nouveau. Le premier, c'est la personnalité de François Legault. Gaëtan Barrette, qui l'a côtoyé, a dit dans les dernières heures, là, sur une autre tribune, moi, je l'ai rencontré, j'ai été son collègue. Puis c'est quelqu'un qui a une fierté peut-être exacerbée, exagérée. Lui, il pense qu'il peut revirer le vent de bord, puis il est la CAQ, hein, il a fondé la CAQ, il incarne la CAQ, donc il se dit, j'ai déjà été au sommet de la popularité, je ne vois pas pourquoi c'est perdu à tout jamais. Mais il y a un deuxième argument, c'est ce qui s'est passé à la dernière élection fédérale, parce que les libéraux étaient donnés perdants jusqu'à à peu près 2-3 semaines du déclenchement des élections. Et là, surprise, ils réussissent à remporter l'élection. Et moi, je faisais partie de ceux qui pensaient que Justin Trudeau aurait pu gagner la prochaine élection.
Hein, tu m'étonnes, ça. Pourquoi? Parce que tout le monde a vu Carney le sauveur, le CV, l'homme qui allait combattre Donald Trump.
Le monde a surtout eu peur de Trump. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger les deux. Moi, je pense que, évidemment, que Carney a aidé la cause des libéraux, mais je pense que les gens ont tellement eu peur de Trump qu'ils auraient été capables de choisir Trudeau plutôt que Poilievre, qui n'était pas capable de s'enlever. Non, mais là, on fait évidemment de la fiction, on est dans le passé.
Oh, on est dans les hypothèses.
Mais je pense que Legault, il se dit tout est possible. Tout est possible. Et si jamais on approche de la campagne électorale et que l'argument du référendum, ça pogne, la mayonnaise, ça pogne, et que Pablo Rodriguez ne réussit pas à bâtir une grosse équipe et ne réussit pas à se décoller du dos l'idée qu'il était partie intégrante du gouvernement Trudeau, mais peut-être que c'est vers moi que ça va se retrouver. Puis je vois d'autres arguments aussi, rapidement, là. Il n'y a pas personne à l'intérieur du caucus de la CAQ en ce moment dont la personnalité comme ça nous se distingue vraiment du legs de François Legault. Il a fait sa plus grande erreur politique, François Legault, en muselant ses ministres, puis en muselant ses députés dans son premier mandat et en leur donnant donnant l'impression aux gens que c'était Legault ou c'était rien. Là, l'ennui, c'est qu'il n'y a personne qui pourrait être désigné par François Legault comme le poulain et à qui on ne poserait pas toutes les questions qu'on s'apprête à poser à Pablo Rodriguez, par exemple. Hein? C'est quoi en quoi vous n'étiez pas d'accord avec François Legault quand il y a eu Nordvolt, ça clique? Il n'y a personne qui va oser dire « Ah, moi, écoutez, je ne pensais pas comme ça. » Ils sont tous associés de très près à la figure de François Legault. C'est pour ça que la seule façon pour la CAQ de trouver un autre chef qui pourrait, disons, décoller plus que François Legault, ce serait de trouver quelqu'un de l'extérieur.
Tellement content.
Là, Pascal, depuis tantôt, j'entends Pascal, Rémi dire « Ah oui, merci.
Merci.
François Legault se prend pour le messie. »
Non, mais merci d'en parler parce que c'est une des affaires que chaque mois, vous pouvez me juger, là, je fais un genre de récapitulatif de ce que je pense en termes de politique sur différents aspects qu'on n'a pas le temps de parler parce que, bon, point de presse, annonce et tout ça. Et c'est un des aspects que je me suis noté qui revient complètement à chaque fois qu'il y a une annonce ou à chaque fois que... Quand il y a un rififi, là, à la base, coalition veut dire un amoncellement de gens qui ont des façons de voir la politique.
Oh oui, il y a des fédéralistes, il y a des séparatistes.
Et on a décidé d'en faire une équipe qui a été promue, tu sais, disons-le comme ça, au pouvoir.
Oui, puis pour sortir du fameux débat oui-non référendum.
Exactement. Et François Legault, en étant au pouvoir, avait dit « je veux décentraliser le pouvoir ». Puis il en parlait pour plein de ministères, pour plein de façons de faire, mais aussi au sein de son parti. Et on a vu quand ça commençait à mal aller, et bien sûr, à partir de la pandémie, une centralisation totale du pouvoir à sa simple et unique personne. Et quand ça n'allait pas avec un ministre, quand Simon-Jolin Barrette était mal vu ou quand Geneviève Guilbeault, il ramenait tout ça à lui tellement que quand on avait une opinion différente au sein de sa coalition, puis tu dois t'en douter, si tu ramasses des gens de tout acabit, que ce ne sera pas toujours facile, ben on les fouettait, politiquement parlant, comme Bernard Drainville qui s'est mis à pleurer quand on a annoncé la mort du troisième lien, quand il y en a qui ont commencé à se prononcer sur des enjeux sur lesquels ils se sont fait élire dans les circonscriptions. Et ça, je le comprenais pas. Et ça m'a beaucoup parlé du leadership de François Legault. Puis je me dis, vers où on se dirige? Puis effectivement, en ce moment, est-ce que quelqu'un ici dans la foule, au 88-971-1021, qui est capable de dire avec force, comme on le disait lors du premier mandat puis au début du premier mandat, qui pourrait succéder au sein même du parti à François Legault et en faire une job où on se dit ben, on est en confiance, sachant qu'il va fort probablement ne pas être élu ou encore démissionner ou encore se faire démissionner? Comment est-ce que tu as réfléchi la chose? Est-ce que tu voulais mourir avec ton parti? C'est une question que j'aurais envie de vous poser, les gars. Est-ce qu'il voulait mourir avec son parti?
Ben, c'était un coup de circuit de Pascal. Elle a tout dit. C'est exactement ça. Tout est là-dedans. Tu sais, je me rappelle, moi, ça m'avait marqué quand ils avaient reculé sur le troisième lien. Des députés étaient sortis de la région de Québec, Bernard Drainville qui pleure. Et le lendemain, ils ont une rencontre au caucus, puis ils reviennent, puis ils disent devant les journalistes, c'est beau, on est soudés, il n'y en a pas de problème. Là, tu fais,
en effet. La même chose pour les Kings. Les députés du Saguenay étaient sortis en disant « ça n'a pas d'allure, crime, avec tous les problèmes qu'il y a, pourquoi on dépense 7 millions pour les Kings? » On a amené les députés du Saguenay dans le caucus, on est ressorti. « C'est bon, on a pris la bonne décision. »
C'est en plein ça. Fait que c'est très délicat.
Donc, on en revient, Rémi et Pascal, puis je suis d'accord avec vous au fait que la CAQ, c'est François Legault, ça va vivre avec François Legault, ça va mourir avec François Legault.
Oui, mais il y a la pire des options qui est sur la table de la CAQ en ce moment, c'est que François Legault finisse son mandat et démissionne le jour du déclenchement de la campagne électorale en désignant un poulain. Ça, c'est la pire affaire qui pourrait arriver parce qu'il doit donner du temps à celui ou celle qui pourrait prendre la barre.
En effet.
Lui donner du temps pour s'installer, faire des grandes entrevues, aller à Tout le monde en parle, aller rire à Radio-Canada sur un panel plate. Tu sais, y a ça, là. Il faut donner du temps à cette personne-là. Mais si on la révèle comme ça, à trois semaines de l'élection, c'est final bâton, c'est terminé.
Rémi Villemur, c'est toujours un plaisir de te parler. On t'écoute au 99.5 Montréal du lundi au jeudi de 18h à 19h et le samedi matin de 8h à 10h. Tout se passe bien de ton côté là-bas.
Oui, tout se passe bien. Beaucoup de travail, mais j'aime ça. On est jeunes, on avance.
Et voilà, avançons. Rémi, t'es un gars plein de talent.
Si jamais, Rémi, tu te sens seul parce que tu travailles trop, oublie pas, il y a des robots maintenant
oui,
pour ça.
Oui, exactement. Ou viens faire un tour dans la vieille capitale, on prendra une petite bière ensemble.
Je pense que je vais faire ça.
Yes, cool! Salut Rémi, merci beaucoup. Rémi Villemur, animateur sur les ondes du 99.5. Vraiment un gars plein de talent, un jeune talent dans la politique et dans les médias. J'adore nos conversations avec lui.
Oui, puis souvent, c'est hors de ce qui grouille actuellement, là, vraiment oui. Point fort ou annonce. Puis je trouve ça intéressant, t'sais, cette analyse-là, de se dire, bon, parce que quel sera notre terrain? Quel sera le terreau politique de la province après cette élection-là? Faut se poser la question.
Vraiment, il y a un Pablo Rodriguez qui ne monte pas du tout dans les sondages. Courte pause à Boulevard 101, l'émission On en jase. Et par la suite, Pascal, on parle d'agriculture parce que c'est très difficile pour les agriculteurs et pas juste avec les changements climatiques, avec la façon que notre système est fait. Économiquement parlant.
Ben oui, puis avec Trump, qui a centralisé un peu son économie au sein de son pays, nous, oh mon Dieu, on avait donc bien une envie d'être indépendant et d'être près de nos ressources, de s'alimenter nous-mêmes. Et est-ce qu'on donne vraiment cette possibilité-là aux agriculteurs? Ben, sachez que pour la plusieurs, ils payent de leur propre poche le fait de pouvoir vous nourrir.
Moi, quand tu m'as dit ça tantôt, j'ai fait, ça n'a pas de sens, ces gens-là travaillent entre 16 à 18 heures par jour.
Et là, tu te dis, ben, qui de base ça met plein les poches? Et si c'était la Chine? Oh. Et si c'était, les bannières?
Là, tu m'intéresses. Restez des notes après la pause. Pascal CV, son dossier sur l'agriculture. On en jase sur les ondes de Boulevard 101 qui tire déjà à sa fin. Il est 13h42. Pascal, t'as attiré mon attention tantôt quand t'as dit Jacques Gourde, parce que Jacques Gourde, le député, là, c'est lui qui fait toujours un scandale.
Oui, c'est le coloré Jacques Gourde,
c'est ça, hein?
Qui attire l'attention à sa manière dans des périodes de questions et des choses comme ça. Mais c'est un gars quand même qui est très apprécié. Hein. Là où il fait de la politique, ben, c'est du côté de la Rive-Sud. Puis là, il y a une grande majorité des gens qui l'apprécient. Jacques Gourde, ce qui est intéressant aussi avec lui, c'est qu'il va aller défendre souvent les agriculteurs. Et il a attiré mon attention, puis je suis allée plus loin, j'en ai fait un dossier. Voici ce qu'il avait à dire. Il y a quelques jours.
Malheureusement, dans ma circonscription, j'ai vu des fermes familiales de 35, 40, 50 ans abdiquer, les fermes maraîchères. Là. Puis ça revenait tout le temps. On n'est plus capable de livrer rien. Il y a toujours quelque chose. Comme vous avez dit, un frais pour déchargement. Ça arrive du jour au lendemain, c'est 50 $ pour décharger. Il faut que tu arrives à telle heure. Si tu arrives deux minutes trop tard, tu vas attendre 3-4 heures. Un moment donné, là, les producteurs, là, moi, je ne suis pas inquiète pour les producteurs parce que c'est des gens là, qui sont débrouillards. Ils vont faire d'autres choses. Mais qu'il n'y en ait plus de producteurs qui veulent en faire des fruits et des légumes, là. Il y a juste 1% de la population qui travaille dans le milieu agricole là, pour nourrir toute la population. Puis on les tient comme des esclaves de la terre. Livrez-nous votre marchandise. Vous aurez le prix qu'on voudra bien vous payer. Puis après ça, on leur met des normes sur le dos. Est-ce qu'on va atteindre un mur, tôt ou tard, sur le nombre de producteurs? Parce que moi, ça m'inquiète bien trop. Moi, je vois d'ici 15 ans, là, on va être obligé de mettre des programmes nationaux pour avoir des producteurs agricoles au Canada. Qu'est-ce que vous en pensez?
Et là,
le mur est vraiment très, très proche.
C'est parti en vrai, il veut pas, parce qu'on parle de 1% des gens au Canada qui œuvrent en agriculture, mais il y en a aussi beaucoup qui se demandent qu'est-ce qui va arriver pour la suite des choses. Ça va être les enfants qui vont prendre l'entreprise? Est-ce qu'on va devoir la vendre? Et ces terres-là où on défriche, on cultive depuis des années, elles sont riches. Ça fait partie de notre grande ressource dans le pays. Il représente Lévis-Lobinière à la Chambre des communes et Jacques Gourde a décidé de prendre cette parole-là, moi, je me suis dit, ben parfait, on va aller parler à un agriculteur. Vous le connaissez très bien, c'est David Simard de la ferme Simard. Et je voulais voir avec lui, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est juste divertissant? Est-ce que c'est un réel enjeu, le fait qu'on vous dise, en fait, quel prix on va vous payer pour vos récoltes, ce qu'on va prendre, et surtout, on vous met des bâtons dans les rues. T'es-tu en accord, toi, avec comment ça se passe actuellement?
On parle des frais un petit peu de doc, là, qu'on appelle là, les gens qui se font charger un frais pour pouvoir décharger. Ils parlent aussi là, des grandes chaînes qui décident des prix, là, si on veut, pour les agriculteurs. Puis il y a une partie de ça qui découle d'un article de la terre de chez nous qui est sorti récemment, qui disait que Metro Super C avait importé là, des carottes de la Chine. Il y avait des promotions dans les circulaires avec des carottes de la Chine, alors qu'en ce moment, au Québec, on a un surplus de carottes. C'était une très belle saison dans cette production-là, puis les prix sont littéralement à terre. Donc, ça faisait la grogne un peu, ça fâchait un petit peu tout le monde.
Et avec raison, ça n'a pas de sens. Des alors, carottes de la Chine qu'on a trop ici en sol québécois.
On s'entend-tu qu'on est dans la période des récoltes?
Ben exactement.
On est vers la fin, mais on en a des légumes ça. À pocheter.
Je serais plus compréhensif au mois de février, mais pas là.
Et encore, parce qu'on peut la produire à l'année.
En effet.
Pourquoi est-ce qu'on n'investit pas dans le fait qu'on puisse produire aussi à l'année pour avoir nos produits? Puis là, la façon facile de raisonner, puis je pense que tout le monde se pose la question, c'est oui, mais tu sais, à un moment donné, dans le contexte économique, là, ça se peut qu'on n'ait pas l'argent pour les carottes d'ici. Est-ce réel de penser que celles de la Chine sont moins chères? Si oui, pourquoi? Avec tout ce qui est frais de transport et tout ça. Est-ce que c'est eux finalement qui perdent au compte? Est-ce qu'elles sont vraiment moins chères, ces carottes-là?
Juste pour ceux qui diraient, bon ben les chaînes importent des produits parce que c'est une question de prix, c'est normal, ils veulent avoir les prix les plus bas possibles sur les tablettes. Premièrement, les carottes de la Chine n'étaient pas nécessairement moins chères que celles du Québec. Puis la chaîne Métro, qui est la plus petite chaîne là, des cinq plus importantes au Canada, a engrangé en 2024 des profits de 460 millions de dollars. L'agriculture au grand complet, quand on parle les 27 000 entreprises agricoles en 2024 au Québec, la totalité ensemble, les profits, ça a été de 165 millions. On est 27 000 entreprises pour 165 millions quand une seule des cinq grandes chaînes fait 460. C'est un peu dérisoire de penser là, que c'est nous, les producteurs, là, qui font des produits trop chers. Souvent, ils vont importer des produits de la Chine seulement pour avoir des plus grosses marges. Puis le message officiel de la chaîne là, dans les médias, là, c'était que cette variété de carottes-là était spéciale. Puis qu'on n'était pas capable de la faire au Québec. Puis c'est pour ça qu'il l'importait, que c'était un produit un peu spécial, puis un peu de niche, si on veut. Ce qui n'est pas du tout vrai. Il y a des producteurs qui sont sortis, là, encore une fois, sous le couvert de l'anonymat pour être sûr de ne pas avoir de représailles, là, qui ont confirmé qu'on était tout à fait capable de produire ces variétés de carottes-là ici au Québec.
Il y a plein de choses là-dedans, Pascal. Mais je veux pas avoir de représailles.
Donc, on est muselé de parler parce que, assurément, si on fait affaire avec une bannière, Jeff, c'est notre façon de faire de l'argent annuellement. On veut pas perdre, en fait, ce contrat-là. Non. Mais ça se peut que le contrat
fasse
pas notre affaire.
Mais on s'entend, c'est ma façon de faire de l'argent. On s'entend que les agriculteurs font pas mal moins d'argent que les chaînes alimentaires.
Ça veut pas dire qu'il y a pas d'injustice là-dedans.
Mais c'est
ça. On comprend que les bannières sont en affaire au privé. Donc,
oui.
Ils peuvent vraiment choisir avec qui ils font affaire. Puis la marge qu'ils veulent avoir. Mais est-ce qu'on aurait une question de société à se poser là-dedans? Quand on apprend que 460 millions de dollars de profit, ça, c'est seulement pour une des grandes bannières,
ouais.
Mais que pour les 27 000 agriculteurs au pays, tu as juste 165 millions de dollars qui sont partagés
ouais.
entre eux.
Alors que c'est eux qui travaillent la terre, qui font la grosse
job,
qui en prennent soin, qui font la grosse job pour nous nourrir.
Exactement.
C'est ça qui fait pas de sens
dans ce
courant-là.
Oui, c'est un peu un secret gardé comment ça fonctionne.
C'est des pratiques déloyales, là, bien souvent. Puis les producteurs, on n'entend pas beaucoup parler. Puis même les associations de producteurs hésitent à sortir contre ça, là, par peur de représailles. Il y a plusieurs producteurs dont les chaînes sont les seuls clients. Donc, c'est sûr et certain qu'on ne verra jamais ces producteurs se plaindre dans les médias, du moins en affichant leur nom, là. Donc, c'est quelque chose qui est gardé un petit peu secret, si on veut. Puis, quand ça sort comme ça au grand jour, tout le monde est surpris, mais nous, on sait comment ça fonctionne. Il n'y a rien de surprenant là-dedans.
J'asais avec David Simard de la ferme Simard ici sur la côte de Beaupré, puis tu sais, il disait c'est un peu difficile de se battre parce que justement, entreprise privée, réglementation, etc. Tu sais, il dit est-ce que moi, en tant qu'agriculteur, en solo, en indépendant ou autre, je vais être capable? Même si on se met en gang, c'est pas toujours facile. Alors, tu sais, la solution première, c'est le choix de société. Le choix d'être vraiment lucide à dire est-ce que je peux acheter québécois? Puis si je peux pas acheter de carottes, par exemple, cette semaine, je vais me tourner vers autre chose. Mais il arrive quoi aux carottes? Parce que là, on est dans une saison, on a énormément produit de carottes.
Oui, là, David nous disait tantôt, on a un surplus.
On a un surplus.
Mais on en vend de la Chine.
Mais on met des spéciaux, puis on prend majoritairement celle de la Chine sur nos étalages pour certaines bannières. Donc, il arrive quoi? Est-ce qu'on perd les récoltes?
Dans le cas précis de la carotte, ça se ramasse aux carottes à chevreuil, c'est sûr et certain. Là, on a presque le même prix pour des carottes à chevreuil qu'on a pour des carottes fraîches lavées puis belles pour la consommation. Là, actuellement, le prix du marché pour la carotte à chevreuil, on parle de 8 à 12 $ là, au détail pour des poches de 50 livres. Puis en ce moment, là, dans le marché de gros, c'est à peu près 10 $ la poche de 50 livres qui est offerte aux producteurs. Là, donc, c'est sûr et certain qu'il y a un gros paquet de carottes en ce moment qui se ramasse directement pour le chevreuil parce que c'est plus facile et c'est plus payant pour les producteurs de faire ça, ce qui est un non-sens. Puis dans les autres productions, ben c'est juste les prix qui s'écroulent, puis souvent ça va être d'essayer de vider les entrepôts le plus rapidement possible, puis de pas supporter d'inventaire, puis d'essayer de passer ça quand même. Les producteurs sont pris avec des menottes. Hein. C'est pas nous qui décidons du prix. Puis à un moment donné, il faut vendre. Quand tu as un entrepôt qui est plein, tu ne veux pas attendre que ça pourrisse. Fait que c'est le prix qui continue de descendre. Puis les gens ramassent le chèque qu'ils ont. Puis ils font avec.
Et pognon à gorge bien raide. Puis avec nos carottes qu'on produit chez nous, on nourrit les chevreuils, on nourrit pas les êtres humains.
C'est rien contre les chevreuils, là, pas du tout.
Non, moi non plus.
Qu'est-ce qui se passe, les carottes aux chevreuils? Bien, c'est des carottes qui, normalement, sont déclassées, donc des pourries, des cassées. Le taux de déclassement pour les carottes, c'est 30 %. Mais ça, c'est pas grave. Le chevreuil va la manger quand même. Mais là, quand c'est des belles carottes qui ont été travaillées, qui sont pas déclassées, qui ont été lavées, qui ont été préparées, ça, c'est le coût de la main-d'œuvre. C'est du temps pour les agriculteurs.
Oui.
Puis là, tu vois, ça s'entasse dans un hangar, puis il se dit, bien, à un moment donné, il faut que j'y vende, mais ça se peut que ça m'ait coûté, je fais un exemple de chiffre, 10 $ les produire, mais que je les vends à 2$. Fait que je suis vraiment perdant. Puis ça, c'est une question que j'ai posée. Est-ce que, dans le fond, tu payes toi-même pour nourrir les gens?
Souvent, les producteurs sont à perte. Quand je te disais que le 165 millions, c'était le profit total divisé par 27 000 entreprises agricoles au Québec, ça fait à peu près 6 000 $ par entreprise. Donc ça inclut pas les assurances récoltes puis les subventions que certains peuvent obtenir. Donc, ce qu'on peut en déduire, c'est qu'il y a un paquet de producteurs qui produisent à perte, puis que le seul moyen d'arriver, Yvonne, ou peut-être générer un petit peu de profit, c'est d'avoir des assurances stabilisation là, dans certaines productions. Fait que c'est pour certains, c'est le seul moyen de pas être à perte, c'est l'assurance stabilisation. Là. On l'a vu dans le porc pendant plusieurs années. Actuellement, dans le porc, ça se replace un petit peu plus. On l'a vu aussi dans le bœuf pendant énormément d'années. Le bœuf aussi, là, c'est replacé. Là, maintenant, c'est le maraîchage là, qui mange un coup dans les cette année et dans les dernières années. Donc, c'est un peu ça. Là, on produit à perte.
Très, très, très questionnant. Mm-hmm. Peu encourageant pour nos agriculteurs, nos maraîchers. Merci à David Simard d'avoir contribué. Franchement, Pascal, va falloir faire quelque chose pour nos agriculteurs. Sinon, on va arrêter d'être autonome au niveau de l'alimentation.
Puis bravo pour le courage aussi. Mais tu vois, ça complexifie énormément le marché européen en ce moment. Donc, faut miser sur ce qu'on a ici. Puis je comprends pas que ce soit les enfants pauvres, si on veut, de la réglementation. Au Québec, du moins, pour 27 000 agriculteurs, c'est pas énorme, là.
Non,
exact. On pourrait s'en occuper plus pour ce qu'ils font pour nous.
Vraiment, Nadine, qui écrit « Acheter local », c'est un très bon point. On a PO aussi qui nous parle là, d'essence, de machinerie à réparer, tout ça, qui explique aussi que les marges de profit diminuent et avec raison. Pascal CV, ça fut un plaisir comme à chaque midi.
Oui, puis on se retrouve demain.
Farnell Morisset va être avec nous. Imagine-toi donc que Farnell, c'est un ingénieur. Oui. Fait que là, il va nous expliquer toute la polémique autour des ingénieurs. Puis de ça, ma mère.
On fera un petit retour. Pourquoi t'as le droit de dire ou pas que t'es ingénieur?
J'ai ingénieur.
Tu l'es, tu. Ah, es-tu ingénieur, toi?
Farnell, il est tout. Par exemple, il est avocat, il est ingénieur. Non, moi, je suis pas assez intelligent pour être ingénieur.
Franchement... Franchement, chacun a une intelligence, ça dépend dans quel domaine.
T'as raison. Hey, à demain, Pascal Cévé. C'est le retour de Gravel qui suit à l'instant même avec Denis Audrey et Véro.